Africa. Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot, présentée par Hakim Djellouat sur Africa Radio. Africa.
Bonsoir à toutes et à tous. Très très bon début de semaine à vous. Nous sommes bien sûr, lundi, c'est le début de semaine et c'est le printemps depuis un petit moment. Il est 20h21 exactement à Paris et 21 du côté de Abidjan en Côte d'Ivoire. Très heureux aussi de vous retrouver sur l'antenne d'Africa Radio. C'est l'heure de votre émission sportive. Bonsoir Willy Dorkenou, comment allez-vous?
Oui, bonsoir mon frère, bonsoir tout le monde. Je tiens à dédier cette émission de mon côté à M. Francis Ngannou, un grand champion de MMA, qui est le sport aussi, donc on parle du sport. Donc je dois dédier de ma part cette émission à M. Francis Ngannou.
Francis Ngannou, champion du monde en MMA, arts martiaux mixtes, mixed martial art en anglais, et effectivement, qui vient de remporter effectivement sa ceinture. Vous avez peut-être pu voir le petit post via le site de Facebook d'Africa Radio. Le Camerounais qui s'empare une nouvelle fois et qui a pris sa revanche sur un coriace adversaire en MMA et qui remporte le titre de champion du monde. On le salue effectivement et c'était important de le dire. Vous êtes sur Africa Radio et avec moi aussi pour m'accompagner, Christian Chango. Bonsoir.
Salut Hakim, bonsoir à tout le plateau, coucou à Val, à la Réal et salut à tous les auditeurs.
Lui aussi, il est présent et avec ses informations et ses statistiques, c'est Salim Layouni. Bonsoir Salim.
Bonsoir Hakim, salut à tous sur le plateau. Salut de l'autre côté à Valentin et salut à toutes les auditeurs et toutes les auditrices.
Nos pensées également vont au coach Lamine qui est du côté du Sénégal et qui nous écoute certainement. On fait un coucou aussi au coach Lamine bien évidemment. On fait un coucou à tous ceux qui nous écoutent depuis le continent africain. On le rappelle au sommaire de votre émission, voyage en Afrique suite des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations avec des qualifications importantes pour des sélections et historiques pour d'autres. On connaît désormais 19 des 24 équipes qui disputeront la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. À suivre sur Africa Radio, bien sûr, ça sera entre janvier et février 2022 au Cameroun avec toute l'équipe de Tout Feu Tout Foot bien évidemment et les Nigérians qui ont décroché leur qualification pour la CAN 2021 à l'issue de l'avant-dernière journée des éliminatoires. On parlera aussi de cette sélection qui nous a fait vibrer, qui nous a fait tout simplement émerveiller les yeux, le cœur. C'est les Comores. On va en parler tout à l'heure, ça sera à l'heure de cette émission, bien sûr plus précisément à 21h précise, avec notamment un Comorien journaliste qui sera avec nous, Nasreddine Abdellah, passé lui aussi par la radio africaine, c'était il y a quelques années maintenant, mais qui vole de ses propres ailes. Nasreddine Abdellah qui nous parlera bien sûr de cette qualification des Comores qu'il a suivi avec attention. On parlera aussi bien sûr de certaines sélections qui ont perdu le fil de cette qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et des éliminés. Mais avant tout, bien sûr, le jingle de cette émission Tout Feu Tout Foot, c'est tout de suite, c'est maintenant. Fin du match, mais pas la fin de l'émission, au contraire, c'est bien le début de cette émission Tout Feu Tout Foot. Hakim Djellouat pour vous accompagner ce soir avec Willy Dorkenou, Christian Chango, Salim Layouni à la réalisation de cette émission. Avec nous Valentin Blanc. Bonsoir Valentin et un petit coucou aussi à vous qui nous accompagnez régulièrement et chaque à chaque émission de Tout Feu Tout Foot. On connaît hein, bien sûr désormais 19 sélections au total sur 24 équipes qui vont disputer cette Coupe d'Afrique des Nations. On va s'intéresser particulièrement eh bien, groupe par groupe pour analyser et décortiquer aussi tous les matchs qui ont eu lieu la semaine dernière. Ça a démarré le 22 mars et ça va se terminer eh bien, cette semaine. Bien évidemment, des matchs aussi ce soir hein, qui vont avoir lieu. Bien évidemment, qui va tout simplement prendre le titre de la sélection algérienne qui avait remporté la CAN en 2019 du côté de l'Égypte, une Coupe d'Afrique des Nations vraiment palpitante, passionnante, et bien en cette période de pandémie. Christian, on va s'intéresser particulièrement bien sûr à ce groupe A avec des équipes qui ont arraché leur qualification et d'autres qui sont sorties de cette compétition sur cette phase éliminatoire.
Exact, Hakim, avec le groupe A, on va donner donc le résultat des deux journées qui ont eu lieu, la journée 5 et la journée 6 pour le groupe A. Alors, c'est joué la semaine dernière. Guinée face au Mali, victoire de la Guinée, 1-0. Tchad, Namibie, victoire de la Namibie, 3-0. Dernière journée, Namibie face à la Guinée, victoire de la Namibie, 2-1 face à la Guinée. Et le Mali, on a mis 3 au Tchad, hein, victoire par KO, hein, vu que le Tchad a été disqualifié, on le rappelle, par la CAF, donc 3-0 également. Donc dans ce groupe, le Mali et la Guinée sont qualifiés, la Namibie rejoint le Tchad aussi et est également disqualifiée.
Messieurs, dans le cadre de cette poule, le groupe A, bien sûr, avec 4 grandes nations, bien sûr, on est triste déjà pour le Tchad. Woody Dorkenou, parce que il y a eu quelques complications, notamment aussi au sein de la fédération dernièrement, par rapport à quelques complications de communication entre la fédération tchadienne et la confédération africaine et la FIFA. Mais le Tchad qui quitte cette phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec seulement un petit point. La Namibie troisième, la Guinée qui se qualifie avec le Mali, bien évidemment. Que retenez-vous dans ce groupe A, Woody Dorkenou ?
Un petit point en étant disqualifié, ça fait un peu beaucoup. Donc ça veut dire que c'est la gestion de cette fédération qui est mauvaise. Ce ne sont pas les joueurs, je l'ai toujours dit. Les joueurs sont bons en Afrique, partout. Le problème en Afrique, c'est la gestion des joueurs et de la fédération qui pose problème. Donc bravo aux habitués, c'est-à-dire la Guinée et le Mali. Moi, je l'ai toujours dit, depuis tout petit, en Afrique de l'Ouest, il y a Ghana, Guinée et le Mali.
Ouais.
Donc, il n'y a pas grand-chose à dire sur le Mali et la Guinée au niveau du football africain.
Une bonne qualification pour les Maliens, pour les Guinéens. Christian Chango, même question, vous retenez quoi dans ce groupe A ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Bien sûr, le Tchad qui a été disqualifié, la Namibie éliminée, le Mali qui arrache sa qualification en étant premier de ce groupe et la Guinée deuxième qui également rejoint les Aigles du Mali pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en 2022.
Oui, exact. Hein, dans le groupe A, le Mali était déjà qualifié, ça on le savait. Ça jouait surtout entre la Guinée et la Namibie. Juste un petit mot sur le Tchad. On avait eu il y a quelques semaines un de nos confrères qui nous parlait déjà de la situation qui est toujours chaotique au niveau de la fédé tchadienne. Vous avez dû rappeler notamment Jafet pour essayer de relancer un peu la machine. Ça a amené à la disqualification du Tchad. Donc encore une fois, c'est les joueurs qui en pâtissent. Malheureusement, c'est les joueurs, les supporters de ce pays de football. Donc ça, c'est un petit coucou à nos auditeurs et supporters de la sélection tchadienne.
Bien
voilà,
sûr.
Désolé pour eux. Et sinon, moi, sur les deux matchs qui ont eu lieu, donc Guinée-Mali et Namibie-Guinée, j'ai été surtout déçu par le Mali sur le premier match face à la Guinée, par rapport à ce qu'ils ont proposé, même s'ils étaient déjà qualifiés. Et sur la deuxième rencontre, après cette victoire de la Guinée face au Mali, on a vu que la Namibie a cru à ses chances jusqu'au bout, a posé des soucis à l'équipe guinéenne. Donc, ce que je retiendrai dans ce groupe-là, au-delà de l'élimination du Tchad, c'est la prestation globale sur la compétition de la Namibie qui aura montré quelques qualités, qui aura montré aussi le visage qu'a cette équipe et que c'est une équipe de football. Malheureusement, quand même, la logique, si logique qu'il peut y avoir dans le sport, a été respectée. Les deux meilleures équipes, quand même, sur la globalité des six rencontres sont passées. Et pour le Mali, juste un mot pour le Mali, j'ai hâte de les voir en 2022, quand il y aura la CAN, hein, qu'on rappelle qu'il aura lieu en janvier de l'an prochain. voir ce que le Mali va nous proposer. Ils sont sur un renouvellement de génération. Il y a beaucoup de positifs du côté du Mali, donc j'espère qu'ils confirmeront ça lors de la prochaine CAN.
Et on le rappelle, hein, le Mali dans ce groupe A, premier avec 13 points, la Guinée deuxième avec 11 points, Namibie 6 points, Tchad 1 point, disqualifié. La Namibie qui aurait pu, Salim Layouni, faire effectivement une finale avec, enfin, en tout cas, s'adjuger effectivement une qualification face au Sidi National. Mais c'est le Sidi National qui se qualifie avec, bien sûr, un stress au finish qui se termine bien pour le Sidi National, pour la Guinée.
Déjà, il faut rappeler dans ce groupe que les résultats contre le Tchad ont été comptabilisés. La raison pour laquelle ces résultats ont été comptabilisés, c'est parce qu'on a joué la phase aller en entier. Parce qu'il peut arriver qu'une équipe soit exclue, et dans ce cas-là, les résultats sont annulés. Sauf quand on a joué tous les matchs de la phase aller. Donc ça, c'est important de le préciser. Donc, vu la situation, le Tchad a joué toute la phase aller. Donc au match retour, ils seront forfaits.
Ouais.
Donc 3-0, victoire 3-0 de l'adversaire. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que, oui, on retrouve, bien sûr, le Mali et la Guinée. La Namibie va être malheureusement éliminée. Ils étaient présents lors de la dernière CAN, je rappelle, dans le groupe du Maroc, de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud, de mémoire. Et c'était un derby contre, d'ailleurs, l'Afrique du Sud pour la troisième et la place de meilleur troisième, puisque je rappelle que dans la CAN 24, on a les meilleurs troisièmes qui sont qualifiés dans les poules. Je parle de la phase finale, bien entendu. Donc là, une petite déception pour la Namibie, malgré la victoire, parce qu'ils ont quand même fini en beauté. Ils ont fait une mini remontada contre la Guinée, perdu 1-0, ils ont gagné 2-1. Donc c'est pas mal. Je dirais que la logique a été respectée, parce que le Mali, on a vu lors de la précédente édition en 2019 qu'ils avaient fait une belle CAN, un très très grand huitième de finale contre la Côte d'Ivoire, avec un match dominé vraiment, c'est-à-dire outrageusement, mais le manque d'efficacité a été fatal pour les Aigles du Mali, et c'était la Côte d'Ivoire qui était passée. Je rappelle aussi qu'ils avaient fini premier dans un groupe avec la Mauritanie, l'Angola et la Tunisie. Donc ils avaient fini devant la Tunisie. La Tunisie était deuxième dans le groupe à la phase finale 2019. Donc voilà, le Mali, si ratait un peu moins d'occasions, peut-être qu'on les retrouverait dans le dernier carré. Je rappelle que le Mali, quand même, c'est une équipe qui a été très souvent dans le dernier carré. On se souvient en 2012, ils avaient éliminé en quart de finale le Gabon au Gabon. Au tir au but. Ils étaient arrivés en demi-finale contre.
Quand on s'intéresse de plus près, messieurs, à ce match Guinée-Mali, c'était la cinquième journée. C'est une victoire de la Guinée, du Sili National, 1-0. Même si, effectivement, comme Christian l'a souligné, et Salim, Willy Dorkenou, le Mali avait sa qualification, mais a été inquiété par le Sili National, 1-0, avec cette victoire. Même courte, mais c'est une victoire.
Le Sili est un grand Afrique. Donc, le Sili, ils ont eu des problèmes de gestion au niveau de la fédération. Donc, c'est ce que je veux dire souvent, je le répète souvent, c'est que les talents des joueurs dans le pays ne s'effondrent pas, ne partent pas, ne quittent pas le pays. Il n'y a que la gestion qui fait que le pays est à la traîne. Mais dès qu'il y a un peu de travail, ça revient en courant. Donc le problème du Mali, moi je l'ai toujours dit aux Maliens, et je veux même, j'ai vu le président de la fédération ici sur notre plateau, je lui ai déjà dit qu'il n'y a que les Maliens qui doutent de la valeur du football et malien. Donc ce qui leur manque, c'est une victoire pour avoir un point d'ancrage. C'est-à-dire que le Brésil a commencé en 58, hein. Donc le problème qui se pose, il faut une victoire pour booster la jeunesse malienne, à savoir qu'ils sont des grands d'Afrique.
Ouais.
Pour l'instant, il y a trop de doutes. Mmh, on vient encore, chercher des binationaux, des gens dans tous les sens. On n'a pas besoin de ça.
Alors que la jeunesse brille à l'international.
On n'a pas besoin. Au Mali, tu mets deux semaines pour trouver des joueurs.
Et on le rappelle, Naby Keïta, le capitaine de cette sélection guinéenne, qui était présent lors de cette victoire, lui qui évolue du côté de Liverpool en Angleterre, a accompagné bien sûr la Guinée dans ce match face au Mali. C'était le 24 mars du côté du stade général Lansana Conté, un match arbitré par le Tunisien Youssef Esrahir, Ayman Ismail et Khalil Hassani pour compléter le trio, avec le quatrième officiel de la Tunisie, Naïm Hosni. On le rappelle, messieurs, du côté de la Guinée, cinq joueurs quand même voilà, de, du cru, de la compétition locale, du championnat national, était présent avec la Guinée. Et quand on regarde le Mali, ça se complète aussi à peu près de la même manière, avec un petit peu plus quand même de joueurs, comme Djigui Diarra du côté du Stade malien, ou Christian Shango, ouais, qui fait partie et qui compose effectivement ce 11 qui a joué contre la Guinée. On a aussi Zoumana Simpara qui évolue du côté du Djoliba. Le Djoliba de Bamako, bien sûr, hein, on veut parler du Djoliba du Mali, et d'autres joueurs aussi qui étaient remplaçants, qui ne sont pas rentrés tout de suite en première mi-temps dans le 11 de départ, mais comme on veut parler de Sadio Kounaté du Stade malien, et des autres joueurs aussi qui évoluent du côté du territoire malien, comme Bassekou Diabaté qui évolue du côté d'Yelen Olympique. On fait confiance quand même, hein, du côté des sélectionneurs aux joueurs locaux. C'est important, que ce soit pour la Guinée ou pour le Mali, Christian.
Oui, exact. Après, encore une fois, faut bien rappeler, il n'y a pas une dualité joueur local, joueur qui est parti à l'étranger. Il faut encore une fois que ce soit les meilleurs joueurs qui, ouais, composent l'équipe. Et des fois, ton meilleur joueur, ça peut être le meilleur attaquant du meilleur club au monde, ouais, du Real Madrid, de Barcelone. Et en équipe nationale, il peut être nul. Et inversement, les locaux peuvent être très bons. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre. Des fois, il y a des binationaux qui viennent, ouais, qui n'apportent rien et qui prennent la place des locaux. Et il faut, en fait, toujours, encore une fois, un mélange qui est là pour aider l'équipe. Et dans le cas du Mali ou de la Guinée, effectivement, il y a quand même quelques joueurs locaux qui étaient présents. Peu ont débuté les rencontres aussi, il faut le préciser. Ouais. Mais il y en a certains qui constituaient l'effectif, et c'est bien, c'est important, et il faut surtout pas que les sélections, que ce soit le Mali, mais toutes les sélections, quand elles ont la possibilité d'avoir des bons locaux, il faut surtout pas fermer les portes aux joueurs locaux, puisque ça envoyait un mauvais message. Ouais. En gros, le championnat local, tu peux être le meilleur sur ton continent, mais si tu joues pas à l'étranger, t'es pas considéré. Donc il faut bien que selon le niveau des joueurs, que la possibilité pour les locaux d'avoir accès à l'équipe A, ouais, est très importante. Donc c'est bien qu'il y ait un mélange.
Bon équilibre, ouais, bon mélange effectivement entre la Guinée et le Mali au niveau des joueurs locaux, les joueurs qui évoluent en Europe. Et aussi, peut-être Salim, on en a parlé la semaine dernière, finalement les clubs européens qui ont décidé de lâcher les joueurs et les laisser partir effectivement après que quelques joueurs aussi africains, nord-africains ou d'autres zones effectivement africaines, ont pu taper du poing sur la table, mais notamment aussi crier en disant « Alerte, écoutez, on a des matchs importants à jouer avec nos sélections, nous souhaitons y aller ».
Juste avant ça, Hakim, je voulais réagir par rapport, parce que, ouais, t'as mentionné tout à l'heure, t'as cité Djigui Diarra. Ça fait maintenant plusieurs années que j'en parle, ça fait 6 ans, on est en 2021. Ouais. J'en parle depuis la Coupe de la CAF, Coupe de la Confédération avec le Stade malien en 2015. J'ai toujours considéré depuis le début que Djigui Diarra était le meilleur gardien malien. Ouais. C'est vrai que par moment, ils hésitaient à le mettre titulaire. Ils le mettaient titulaire. Ils l'ont jamais réellement installé. C'est-à-dire début vers 2015 jusqu'à 2017, etc. À partir de, on va dire, la CAN 2019, voilà, ils ont compris que Djigui Diarra, c'était vraiment le meilleur gardien malien. J'espère qu'il va.
On le rappelle, hein, qui évolue au Stade malien. De Bamako.
J'espère qu'ils vont lui faire totalement, ouais, confiance, parce que c'est vraiment le meilleur gardien malien.
Ouais, pourquoi on lui fait confiance? Simplement parce que l'entraîneur, le coach actuel du Mali, est un Malien qui connaît les joueurs. Quand on amène les bandes de touristes qui traînent là et là-bas, ils ne connaissent pas les joueurs. Donc ils prennent le France Foot ou bien je ne sais pas quel journal, et ils voient qu'il y a un Togolais ou bien un Malien qui joue, je ne sais pas, qui est sur le banc au Real, et il va l'appeler.
Et on va prendre Abdoulaye, puisque forcément, si nous parlons d'éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et de la CAN qui va se dérouler bien sûr sur Africa Radio et en 2022, on va
c'est normal.
Forcément,
la Guinée est qualifiée. Donc,
notre auditeur fidèle et celui qui a toujours le maillot de la Guinée sur lui, c'est Abdoulaye. Bonsoir Abdoulaye, Hakim Djellouat avec vous. On vous écoute, Abdoulaye.
Bonsoir, mais
félicitations, Abdoulaye.
Mes chers auditeurs et mes amis d'Africa numéro 1.
Africa Radio, maintenant. Vous allez payer le café, hein, Abdoulaye. Hein.
Ça fait plus de 20 ans on écoute, c'est pas facile de changer vite le nom.
Il n'y a pas de souci, on est ensemble, Abdoulaye.
Ouais.
D'abord, je vous présente mes félicitations et bonsoir.
Merci à vous, bonsoir. Merci à vous et bienvenue, Abdoulaye. Félicitations pour la qualification du Sili National.
Ouais, c'était bon, logique.
Alors, pourquoi c'était logique?
Ah, mais attendez. Entre le Mali, la Guinée, et la Namibie et le Tchad, les deux premières places étaient logiquement attribuées au Mali, à la Guinée et au Mali.
Mais pas attribuées.
Voilà, mais comme dans un football, dans un match de football, c'est sur le terrain qu'on essaie de voir.
On est d'accord.
Voilà, comme monsieur le doyen, il le dit souvent, et que j'apprécie beaucoup ses analyses.
Merci.
Le football, dans l'historique, les grandes équipes ne meurent jamais dans les pays. Mm-hmm. Bon, il y a toujours des relèves.
Mm-hmm. Ouais.
On a vu la Guinée, autant de petits souris et tout ça. Le Mali aussi, autant de saluts qui étaient et tout ça.
Tout à fait.
Mais, on a connu ça, mais les autres pays, on n'a pas connu.
Dans quel état vous étiez quand vous avez appris la qualification de la Guinée, du Sidi National?
Oui, vous savez, moi, je n'avais pas de doute. Hein. Nous, la seule chose qui m'a fait plaisir, c'est de battre le Mali. Parce que nous...
c'est une belle victoire.
Un derby.
Je félicite mes amis et frères maliens.
Ils vous écoutent, les auditeurs maliens, ils vous écoutent. Hein.
Voilà, qu'il ne faut pas qu'ils se découragent, mais nous avons toujours gagné, la Guinée a toujours gagné le Mali dans les grandes compétitions décisives. Mais plus particulièrement mon copain et ami, Abdoulaye Koné, auquel je lui dis un petit coucou, là.
Il vous écoute.
Mais dans l'histoire du football à la CAN, on a toujours battu le Mali, mm-hmm, dans les grandes rencontres. Mm-hmm. Mais comme le doyen Willy, il répétait souvent, c'est comme le Togo aussi dans l'ancien temps, auquel les imprévus et puis Lomé 1, qui dominait un peu l'Afrique de l'Ouest, ok, on avait une grande équipe, mais le football, les grands joueurs restent, même quand ils partent, le football reste toujours, ouais. C'est dans le cœur des sporteurs. Mm-hmm. Moi, j'ai connu les grandes rencontres des 72 jusqu'aujourd'hui. Mm-hmm. Alors, bon, c'est pour féliciter mes frères maliens, de ne pas se décourager, mais qu'ils sachent que souvent, on les gagne.
Ouais. C'est le message, il est passé à Bilal.
Monsieur Lamine Badiakoum, il n'est pas sur la terre.
Vous pouvez lui laisser un... Ah, il vous écoute.
Je voudrais lui faire un petit coucou, qu'il se passe bien, de bonnes vacances au Sénégal. Mais nous, ce qui nous reste maintenant, c'est le Sénégal.
Il vous écoute, Abdoulaye. En tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous à la radio africaine.
Merci,
la radio.
Merci beaucoup. Vraiment,
merci. Et félicitations.
C'est un plaisir de vous appeler.
Félicitations à vous, Abdoulaye, pour la qualification pour le Sili National. On le rappelle, hein, la Guinée qui se qualifie, Christian, dans ce groupe A avec le Mali. Avant de donner la parole, bien sûr, à un autre auditeur. Et cette fois-ci, nous, on fait la parité. Hein, on est équitable. C'est égalité parfaite. Et on va donner la parole dans quelques instants. Avant, on va vous écouter, Christian, avec le classement de ce groupe A. Il est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui se déroulera, on le rappelle à nos auditeurs, sur Africa Radio en 2022.
Du côté du Cameroun, si tout va bien. Ouais. Alors, dans le groupe A, donc au classement, donc le Mali est premier du groupe avec 13 points, la Guinée deuxième avec 11 points, la Namibie troisième avec 9 points, le Tchad a 1 point, Salim l'a rappelé tout à l'heure, hein, le Tchad a quand même disputé les premières rencontres avant la disqualification, donc le Mali et la Guinée qualifiés dans le groupe A pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Allez, un autre auditeur, et cette fois-ci c'est monsieur Diaby, du côté du Val-de-Marne à Créteil. Il nous appelle sur le 01 55 07 58 00. Diaby, bonsoir. Hakim Djelouat pour vous vous convier. Vous êtes bien avec nous sur la radio africaine avec toute l'équipe de Tout Feu Tout Foot, Christian, Willy, Salim. On vous écoute, Diaby.
Salut Diaby.
Bonsoir Hakim. Je suis désolé, je dors, il y a un peu de bruit, mais.
C'est pas grave, on vous entend bien. On vous entend bien.
Bonsoir Djabé.
Voilà, salut Djabé. Bonsoir à tout le monde.
Edouard, félicitations pour la qualification.
Salut.
Salut. Bah, en fait, j'ai juste dire à Abdoulaye que Guinée, ils ont gagné 19 fois contre Mali. Nous, on a gagné 16 fois. C'est vrai qu'ils ont plus de victoires. Il y a eu 12 matchs nuls.
Ouais, 12 matchs
nuls. C'est vraiment équilibré.
Ouais.
Mais le problème, c'est que Guinée, quand ils gagnent un match, c'est pas important pour nous. Parce que nous, en 2016, à quart de finale, on a éliminé grâce à un tir de Mamadou Diarra-Dila.
C'est vrai.
Là, l'année 2018, c'est le tirage des CAF qui nous a éliminés, c'est pas Guinée. Hein.
Ouais, c'est le tirage au sort.
Voilà. Le tirage au sort, voilà. Ouais, c'était le tirage au sort.
Ah oui, c'est vrai.
Voilà. Qu'est-ce que vous retenez à Diaby de la qualification du Mali? Bien sûr, elle était un petit peu plus tôt, cette qualification, mais ça vous procure quoi pour la sélection, pour le pays? Comment vous sentez?
Honnêtement, quand je regardais le Mali-Guinée, j'étais pour que les Guinéens gagnent parce que je voulais que Guinée qualifie quand même, parce que nous, on était déjà qualifiés.
Bien sûr.
Ouais.
Bah, c'est parce que, franchement, j'étais pour la Guinée, pour les matchs. Ouais. Bon, après, quand j'ai entendu Salim dire « Djigui Diarra, c'est le meilleur gardien malien », c'est ça le problème du Mali. Parce que si c'est Djigui Diarra qui est le meilleur gardien malien, on gagnera jamais une compétition.
Voilà, c'est ça. Ouais, mais Diaby, là, c'est pas gentil. Franchement, Diaby, juste une phrase.
Laisse-moi finir.
Vas-y. Allez-y, Diaby.
Actuellement, c'est le meilleur gardien malien. Mais ça veut dire que ça se trouve qu'on n'a pas de gardien. Parce que si c'est lui le meilleur, vraiment, ça va pas.
Tu veux que je te dise un truc, Diaby?
Je vais finir, après je vous laisse parler.
Allez-y, vas-y. Diaby, allez-y.
Bah, contre Côte d'Ivoire, on le dit qu'on ne prend jamais un grand gardien pour un contre Côte d'Ivoire. C'est grâce à Djigui Diarra qu'on est éliminé. Et une équipe de foot à mon niveau, tu ne peux pas gagner des compétitions sans avoir un grand avançant qui marque. Depuis Frédéric Kanouté, on n'a pas.
Mariga,
vous avez vu contre Côte d'Ivoire, si c'était Kanouté, on le mettait 10. Hein. Si c'était contre Kanouté à la place de Maragon, on met 10 à Côte d'Ivoire. Hein.
C'est vrai. Ce que tu dis est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Depuis Tunisie 94,
ouais.
Depuis Ousmane Farota, Mali, ouais. On n'a pas eu un grand gardien. C'est ça le problème de notre équipe. Le jour qu'on aura un grand attaquant comme Kanouté, actuellement, on a un grand gardien, on gagnera la Coupe d'Afrique. Mais avec Djigui Diarra, jamais de la vie. Vous voyez, à chaque fois, il fait une bêtise. À chaque fois, il va faire une bêtise.
Quel gardien vous proposez,
Non, actuellement, c'est lui le meilleur. Actuellement, je ne dis pas le contraire.
Oui, mais c'est une culture de gardien. Il y a des pays qui ne savent pas produire des gardiens.
Diaby, juste pour terminer la phrase que j'essayais de commencer tout à l'heure. Ce que tu dis sur Djigui Diarra, moi, regarde, je trouve ça un petit peu méchant. Pourquoi ? Parce que je dis pas que Djigui Diarra, j'ai pas dit que c'était l'un des plus grands. J'ai juste dit que tous ceux qui évoluent sur le continent, celui qui est vraiment... Ceux qui sont devant, il y a Denis Onyango de l'Ouganda, il y a aussi Ahmed Chenaoui de l'Égypte. Sinon... Quand on regarde au niveau local, les problèmes qu'ont... La Tunisie a énormément de problèmes au niveau des gardiens. On ne sait même pas aujourd'hui qui est gardien numéro 1. Depuis, même à la CAN 2019, trois gardiens ont évolué, ont joué. Et à la Coupe du Monde 2018 en Russie, les trois gardiens aussi ont joué. Moaz Hassen a joué contre l'Angleterre avec Farouk Ben Mostafa. Et Matt Luthi contre le Panama. Donc c'est pas propre au Mali. Maintenant, quand tu prends Djigui Diarra, c'est vrai qu'il est un peu irrégulier. Ok. Mais c'est lui le meilleur. Pourquoi on lui fait pas confiance? Parce que si tu dis c'est lui, t'entends, ça va pas lui donner confiance.
Pour trancher dans ce petit débat que nous a proposé Diaby avec Salim. Vous parliez de culture du gardien sur le continent africain.
Il y a une culture. Il y a des pays qui produisent des gardiens. C'est-à-dire qu'on prend le Togo, par exemple, que c'est pas parce que c'est mon pays. Ils ont une culture de gardien.
Le Cameroun.
Ils ont une culture de gardien. Donc, c'est ce que je dis.
Parce que je rentre dans le transport, ça va être dur.
Diaby, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes à l'écoute d'Africa Radio. Et c'est les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 que l'on décortique avec vous, auditeurs, avec vous, et bien spécialiste sur le plateau d'Africa Radio depuis Paris. Il est 20h50, bien sûr. On poursuit ces éliminatoires avec Willy Dorkenou, avec Christian, avec Salim, à la réalisation de cette émission Valentin Blanc. Willy Dorkenou, allez-y.
Oui, donc par rapport à la jeunesse, il faut un exemple. C'est-à-dire que si le pays, par exemple, a eu un grand gardien, on forme les gardiens. Mais ce qui se passe au niveau de l'Afrique en ce moment, c'est-à-dire qu'on ne forme que ce qu'on nous demande. Donc si les centres de formation au Mali, on ne leur demande pas beaucoup de gardiens, ils vont former des attaquants.
Ouais.
Il y a des pays où on forme que les milieux de terrain.
On se souvient, Woody Dorkenou, de Thomas Nkono, qu'on a eu sur le plateau et que l'on salue aussi d'ailleurs.
Thomas Nkono.
Et Samuel Adari,
qui a donné l'idée.
Jusqu'à 40 ans. Mais, Bruce Grobelaar, du côté du Zimbabwe. Ouais.
Robert Messin.
Joseph Antoine Bell.
Robert Messin, au niveau du Ghana.
Exactement.
Atuga. Zaki.
Badou Zaki, exactement. Vincent Enyema, donc du Nigeria, effectivement. La culture du coaching est très importante, vous le faites bien de le signaler.
C'est une question de formation.
Et il est important de le faire dans tous les clubs.
Ouais, mais ce qu'on paye cash en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on ne fabrique que ce qu'on nous demande.
Tout à fait.
C'est un business, donc c'est en économie. Tu fabriques que ce qu'on te demande. Donc, on nous demande d'être attaquant.
En tant qu'agent de joueur, Willy, est-ce que vous avez eu aussi à placer, bien sûr, des gardiens? Et avez-vous eu des difficultés à placer des gardiens en Afrique?
C'est très difficile déjà, parce que c'est un poste où il y a trois dans une équipe, donc c'est très peu. Or, quand on dit « Willy, c'est un agent africain », on me demande un attaquant, ou bien un autre essien, un autre Yaya Touré, c'est ce qu'on me demande. Donc, on demande... Et ce qu'on a déjà vu, c'est un exemple. Donc, on demande les Yaya Touré, les Essien, les Abedi Pelé, mais on ne demande pas un gardien.
Est-ce que messieurs, c'est une petite question, ensuite on va passer sur le groupe suivant, messieurs, parce que c'est effectivement les éliminatoires et la question de Diaby était intéressante avec ce petit débat avec Salim, Layouni, qui était avec nous. Beaucoup de gardiens ont marqué l'histoire du football international.
Ouais.
Des gardiens, on veut parler bien sûr des gardiens africains, notamment Pierluigi Buffon qui a appelé son fils Thomas. En hommage à Thomas Nkono, qu'on a souvent eu sur le plateau d'Africa Radio de Tout Feu Tout Foot. Est-ce qu'il est important qu'on insuffle cette culture de tous les postes dans les clubs africains, messieurs, et dans tout le continent, à travers tout le continent?
En fait, ça, c'est même plus général, c'est que quand tu joues au foot, quand tu commences le foot à la base, à la toute base, tout le monde, tu demandes à 10 gosses quel poste ils veulent être. Ils veulent être attaquant. Mm-hmm. Il n'y en a aucun qui veut être gardien.
Gardien.
Ouais. Donc déjà, à la base même de tout ça, ce n'est pas propre à l'Afrique. Hein.
Non.
C'est vraiment dans la
représentation football.
Qu'on a du football. Donc déjà, ça, c'est le premier point. Après, c'est vrai qu'il y a des pays où ils ont cette culture, mais malheureusement, comme le dit Willy, c'est vraiment dicté par ce qu'on demande d'être produit.
Oui.
Il y a des postes, et c'est pas que l'Afrique. Hein. Tu vois les latéraux, les arrière-latéraux, le défenseur gauche, le défenseur droit, c'est un des postes sur le marché des transferts qui est le plus difficile, puisque c'est des joueurs qu'on forme.
Et peut-être le plus stratégique.
Par exemple, au Nigeria,
ouais.
On se souvient de Peter Refai, qui est resté très longtemps.
Tout à fait.
Okay, on a eu Vincent Enyama. Depuis Vincent Enyama, au Nigeria, on n'arrive pas à former un gardien titulaire. On avait Ejide Austin.
Les raisons qui expliquent qu'on n'arrive pas à former des gardiens?
C'est générationnel. C'est quoi, en fait? Regarde, avant, il y avait Ejide Austin. Ejide Austin, aujourd'hui, il a tous les jours sa place. Le problème, c'est qu'il est venu en même temps que Vincent Enyama.
Mm-hmm.
Vincent Enyama était à Inimba et Ejide Austin était à l'Étoile sportive du Sahel.
Ouais.
À l'époque où les gardiens étrangers étaient permis en Tunisie. Ça fait longtemps qu'on ne peut plus avoir de gardiens étrangers en Tunisie. Ejide Austin, il était bon, mais il ne pouvait pas jouer. Mm-hmm. Mais si c'était aujourd'hui. Mais il serait titulaire très largement.
Ouais.
Souvenez-vous, au Cameroun, Jacques Songo, Kameni, il y en a plein des gardiens.
Aliou Boubacar, effectivement, on s'en souvient encore.
Aujourd'hui,
Hakim, on a vu le problème au niveau du Brésil, le grand Brésil.
Tout à fait.
Ils ont eu la chance d'avoir et Gilmar dans les années 50 et 60. Et après Gilmar, zéro. Et il y a même, les gens disaient, par exemple, que le Brésil n'a jamais de bon gardien. Comme par hasard, on a vu Taffarel a fait produire beaucoup de gardiens. Donc, un exemple.
Un exemple, voilà. C'est ça où je voulais en venir.
Léao était pas mal.
Messieurs, effectivement, je suis très content que vous en parliez, effectivement, sur ce plateau. Et Willy, vraiment content de vous entendre. Je pense que l'important, effectivement, pour la formation et les modèles, c'est l'exemplarité, effectivement, d'un gardien qui peut apporter quelque chose. On se souvient aussi de Kossi Agassa, Willy.
Oui, c'est pour ça que...
se souvient de ces grands gardiens qui ont fait effectivement vibrer les championnats à travers leur parade, à travers leur geste spectaculaire.
Tous ces gardiens viennent du même club.
Exactement.
Toi, de Lomé.
De Lomé. Ouais. Tout à fait. Messieurs, c'était une parenthèse intéressante, mais qu'on va réouvrir dans Tout Feu Tout Foot l'histoire des gardiens et l'importance des gardiens au sein des sélections, mais pas seulement dans les clubs. On remercie Diaby au passage et Salim pour avoir lancé ce petit débat. Et on va poursuivre dans quelques instants. On va faire une petite pause. On va s'intéresser bien sûr groupe par groupe à ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations avec Christian Chango, avec Willy Dorkonou, avec Salim Layouni à la réalisation de cette émission Valentin Blanc. Et pour vous servir et vous accompagner, Hakim Djellouat, messieurs, restez bien avec nous, connectés. On fait une petite pause et on se retrouve. Restez bien avec nous sur Africa Radio, c'est Tout Feu Tout Foot.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
On connaît désormais 19 sélections sur 24 au total qui disputeront la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est sur Africa Radio, bien sûr, et pourquoi pas rester avec nous, ça sera en janvier et février 2022. Bien évidemment, d'ici là, nous allons décortiquer les éliminatoires avec toute l'équipe de Tout Feu Tout Foot, avec Willy Dorkenou, Christian Chango, Salim Layouni. À la réalisation de cette émission, c'est Valentin Blanc et Hakim Djellouat pour vous accompagner. Christian, on va s'intéresser à ce groupe B avec certains matchs qui ont eu lieu bien sûr la semaine dernière et d'autres qui vont avoir lieu. Bien sûr, ce n'est pas encore terminé. Hein. En tout cas, juste pour info, l'Algérie qui va démarrer et les joueurs qui vont faire leur entrée sur le terrain pour leur dernier match des éliminatoires.
Exactement, Hakim, c'est ça. Là, donc ce soir, il y a deux matchs qui ont lieu, les deux derniers matchs, les matchs de 21h, donc tu l'as dit, hein, l'Algérie va jouer là dans quelques instants. L'Algérie face au Botswana et le Zimbabwe face à la Zambie. Ça commence là dans quelques secondes. Au niveau du groupe B, donc cinquième journée, la sixième aura lieu demain. L'Ouganda a fait match nul 0-0 face au Faso, et ça s'est joué tout à l'heure aussi, pardon, la dernière journée. Soudan du Sud, Malawi, 1-0 pour le Malawi. Deuxième rencontre qui a eu lieu aujourd'hui, l'Ouganda a battu le Malawi a battu l'Ouganda 1-0 et le Burkina Faso a battu le Soudan du Sud 1-0 également. Donc le Burkina Faso, premier du groupe avec 12 points, est qualifié. Le Malawi, deuxième du groupe avec 10 points, qualifié également. L'Ouganda, troisième avec 8 points. Le Soudan du Sud, quatrième avec 3 points. Donc le Faso et le Malawi qui sont qualifiés pour la prochaine édition.
Ouais, le Burkina Faso et bien sûr le Malawi. Gros match, messieurs, du Malawi hein, face à l'Ouganda. C'était du côté de Blantyre. Et le Burkina Faso aussi qualifié avec le Malawi. Messieurs, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Willy Dorkenou, dans ce groupe B? Quelle a été la rencontre qui vous a le plus intéressé et qui vous a le plus marqué, Willy, et quelle est-elle et pourquoi?
Oui, déjà j'avais prévu le match nul entre le Faso et l'Ouganda, parce que c'est deux pays qui prétendent à la qualification, donc ça a été dur, donc ils sont neutralisés, mais le Burkina est toujours là, et il m'impressionne toujours, et la qualification du Malawi, qui revient, c'est pas la première fois qu'ils sont qualifiés, donc ils sont encore qualifiés, ils sont là, ils sont très athlétiques. Et la rencontre entre le Malawi et l'Ouganda, c'est un derby. Donc ça a été joué comme un derby. Donc ils ont perdu au match aller, ils ont gagné. Le Malawi a perdu au match aller, eux ils ont gagné au match retour. Bravo au Malawi. Donc le Faso, je savais.
Excellente performance.
Je savais qu'ils allaient être qualifiés deuxième ou premier, mais bravo au Malawi.
Excellente performance pour le Malawi. Salim Layouni, la rencontre qui vous a le plus marqué, avant de donner la parole à notre journaliste et correspondant Adama Sourabié qui nous a rejoint et qu'on salue. Bonsoir Adama Sourabié, bienvenue sur la radio africaine et dans Tout Feu Tout Foot.
Bonsoir Hakim Djellouat, bonsoir Salim, bonsoir le doyen Vidi, bonsoir à Valentin Blanc, bonsoir au jeune doyen Christian.
Salut Adama.
Et au jeune junior Christian. Bonsoir à Lamine qui est du côté du continent. Et puis bonsoir à toutes les
Bienvenue Adama Sourabié. Restez bien avec nous Adama parce qu'on va vous demander justement votre avis, vous qui étiez sur place et qui vous êtes intéressé bien sûr à la sélection du Faso avec cette belle qualification. Salim, le match qui vous a marqué ou la rencontre qui vous a le plus intéressé dans ce groupe B, quel a été votre sentiment par rapport à ce groupe B?
Déjà, c'est le retour du Burkina, parce qu'il faut quand même rappeler que le Burkina était absent lors de la précédente édition.
Tout à fait.
Le finaliste de la CAN 2013
ouais.
et le demi-finaliste de la CAN 2017.
Ouais, deuxième en 2013 et voilà. troisième en 2017. Voilà. Hein.
Donc déjà, ça c'est une bonne chose. La rencontre qui m'a marqué, c'est Malawi-Ouganda.
Ouais.
Déjà, il y a
pourquoi
une. Bon, parce que déjà il y a eu l'avant-match, une histoire avec des tests qui étaient positifs soi-disant et qui ont été contestés par la fédération ougandaise. Et la fédération ougandaise a eu gain de cause puisque les tests n'étaient pas fiables. Donc Farouk Mia a pu jouer et Denis Onyango aussi. Comme par hasard, les meilleurs joueurs.
Donc les médecins de la CAF, en tout voilà. cas le corps médical de la voilà. CAF. A bien ouais, contrôlé, stipulé comme voilà, quoi ils étaient négatifs.
Parce qu'au Malawi, ils avaient dit que Denis Soyango et Farouk Mia, comme par hasard les meilleurs joueurs, étaient positifs. Bon, le match a eu lieu avec les stars, donc Farouk Mia, je disais, Denis ouais. Soyango. Et le Malawi a battu l'Ouganda. Très grosse surprise. Très grosse surprise à Kim. Je crois que l'Ouganda.
On s'attendait quand même à une sélection de l'Ouganda qui pourrait se qualifier. On a vu l'Ouganda lors des éliminatoires avant la CAN 2019 faire quelque chose d'extraordinaire.
Oui.
Et là, cette année aussi.
Par rapport, déjà, l'Ouganda, c'est simple. Éliminatoire, Coupe du Monde 2018, ils n'étaient pas loin d'aller à la Coupe du Monde.
Ouais.
Dans
ouais.
un groupe avec l'Égypte, ouais, le Ghana et le Congo-Brazzaville. On voit 8e de finaliste lors de la précédente CAN en 2019. Ils ont fini devant la RD Congo. Ils ont battu la RD Congo au premier match du groupe 2-0. Ils étaient avec le Zimbabwe et l'Égypte dans le même groupe. 2017, ils étaient qualifiés à la CAN, mais pas une CAN à 24, la dernière CAN à 16. C'est pas pareil. 8 équipes en moins. Ils étaient dans le groupe du Ghana, de l'Égypte et du Mali, groupe de la mort. Ils avaient bien joué. Ils n'étaient pas passés, mais ils avaient bien joué. L'Ouganda revient, même que ce soit au niveau des clubs comme Kampala, etc. Ils reviennent. Ouais. Leurs joueurs, ils sont partout. En Afrique du Sud, il y en a qui sont au Soudan, il y en a qui sont en Europe, aussi expatriés. Ouais. Je veux dire, l'Ouganda revient sur le devant de la scène. Finaliste de la CAN 78, je le rappelle aussi.
Ouais.
Donc c'est une grande nation qui a été éliminée. Donc c'est un grand absent.
Malawi, ils étaient au coude à coude, Woody Dorkenou, après cette analyse de Salim Lahouni. L'Ouganda et le Malawi étaient au coude à coude dans ce groupe B, et c'est le Malawi qui sort vainqueur.
Oui, je l'avais dit, c'est un derby de l'Afrique de l'Est. Donc ils se connaissent. En plus, ce sont des pays de sport. Donc c'est des pays anglophones où le sport est ancré dans la culture. Donc on parle de l'Ouganda, il y a beaucoup qui ne connaissent pas ces pays, donc ils pensent qu'il n'y a pas le football là-bas. C'est un pays de sport, de tous les sports.
Un pays de sport, l'Ouganda. Ouais. Christian Chango, votre avis dans ce groupe B, vous aussi, quelle a été votre rencontre qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus intéressé, en tout cas au niveau footballistique? Effectivement, il y a ce match entre l'Ouganda et le Malawi. On aurait pu croire que l'Ouganda allait se qualifier au vu de ses dernières prestations ces deux dernières années, mais effectivement c'est le Malawi qui tape l'Ouganda et de quelle manière.
Exact, déjà félicitations au Faso hein, qui a tenu son rang, pas parce qu'on a El Mejor avec nous, mais le Faso a tenu son rang, donc je suis très content de les voir à nouveau à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Après, c'est vrai que le match qu'on attendait dans ce groupe-là, c'était la finale hein, entre l'Ouganda et le Malawi.
Tout à fait.
L'Ouganda était mieux placé. L'Ouganda était mieux placé au départ de la rencontre, donc c'était une finale et c'est ça qui est beau, c'est ça qu'on aime dans ce sport, c'est que l'Ouganda était quand même favorite de cette rencontre, mais le Malawi avait sa carte à jouer et avait une qualification à aller chercher.
Ouais.
Et ils sont partis renverser, faire l'impossible, mais dans le sport, encore plus dans le football, là, rien ne l'est. Et ils sont partis le chercher. Donc, félicitations. Après, je vous avoue que très honnêtement, avant la rencontre et par rapport à ce qu'il y avait eu sur les prestations précédentes, notamment le match entre l'Ouganda et le Faso, je pensais que l'Ouganda allait faire le job et allait passer. C'est eux, au début des 90 minutes, qui étaient devant, qui étaient qualifiés. Mais le Malawi est parti la chercher, c'est historique, ça fait 11 ans, ils s'étaient qualifiés la dernière fois en 2010, ils sont de retour, donc félicitations.
Félicitations
pour
le Malawi.
On perd l'Ouganda qui est une très belle équipe, mais le Malawi est parti le chercher, donc félicitations vraiment au Malawi, c'est un plaisir de voir revenir cette équipe parmi les 24 meilleurs d'Afrique.
Ouais, et ça sera intéressant effectivement de les suivre attentivement. Il y a Adama Sorabié qui est avec nous hein, depuis bien sûr l'international, depuis le continent, depuis le Burkina Faso. Adama Sorabié, bonsoir, bienvenue sur la radio africaine. Félicitations pour le Burkina Faso qui était bien sûr déjà qualifié et qui a battu une équipe du Soudan du Sud qui sort de cette compétition lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires.
Oui, j'ai pas du ouf de soulagement pour la sélection de Burkina Faso parce que nous avons mal vécu notre absence lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations.
Ouais.
franchement, c'était pas notre place d'être absent, mais on a été absent au vu de la prestation lors des éliminatoires où on s'est fait avoir par la Mauritanie. Et aujourd'hui, nous avons pris les matchs avec plus de maturité et non avoir une négligence vis-à-vis d'une équipe et qui participe à ces éliminatoires sur le continent africain. C'est vrai que je peux vous dire que notre match nul contre l'Ouganda a été un match difficile.
Difficile.
Un match terrible. Mais le Burkina Faso était allé sur la terre ougandaise pour chercher sa qualification. Et c'est ce que les garçons ont fait. Donc moi, j'ai dit bravo. Et encore, j'ai félicité.
Félicitations au Burkina Faso.
Le coach national Kamou Malo, qui aujourd'hui est un produit pur.
Produit local.
Pour le Burkina Faso.
Tout à fait. Voilà. Produit local. Donc,
on rappelle. Nous sommes même un Burkina Faso. Pur jusqu'à l'équipement qui est, nous sommes habillés par Tovio, qui est une marque burkinabé. Moi, j'ai dit bravo.
Important de le souligner, le petit diamant du Burkina Faso qui n'a pas encore fini parler de lui. On le rappelle, le seul but du match a été inscrit par Bertrand Traoré, 50e minute, sur un service de Lassina Traoré. Une rencontre intéressante à Dama et qui permet aussi, de comme vous l'avez dit, de pousser un ouf de soulagement, mais surtout de voir un Faso bien en équilibre et qui finit par une victoire.
Oui, au jour d'aujourd'hui, voilà, nous terminons par une victoire, un match qui se joue chez nous, où nous n'avons même pas espéré pouvoir jouer ce match chez nous, puisqu'on avait connu des problèmes de la normalisation du stade du 4 août.
Ouais.
Et, je me rappelle, Lamine, on en a parlé, on devrait aller jouer notre match du côté du Sénégal et tout ça. Mais je pense que les autorités ont travaillé d'arrache-pied pour que cela devienne une réalité sur le sol burkinabé. Quand même, Salim, de Ludoin Willy ou comme Christian, vous le saviez bien que le Burkina Faso, en participant à une compétition continentale, est une équipe difficilement maniable.
Tout à fait.
Et qui peut ajouter un peu de piment à la compétition.
Il faut le rappeler, ces 10 dernières années, le Burkina Faso a été finaliste effectivement en 2013, deuxième médaillé d'argent pour cette Coupe d'Afrique en 2013 et troisième médaillé de bronze en 2017. C'est important de le souligner, le Burkina Faso qui pointe parmi ses meilleures nations du football en Afrique. Messieurs, on va revoir le classement, Christian Chango, de ce groupe B. Avec vraiment une belle qualification pour le Malawi et pour le Faso.
Exactement, Kim, on va rappeler le classement. Donc le Faso premier du groupe est qualifié avec 12 points, le Malawi deuxième avec 10 points, l'Ouganda troisième avec 8 points et le Soudan du Sud dernier du groupe avec 3 points. Les résultats d'aujourd'hui, le Malawi a battu l'Ouganda et est parti chercher sa qualification 1-0 et le Burkina Faso a fini le job, comme on dit, en battant le Soudan du Sud 1-0 également.
Et on va s'y intéresser aussi, bien sûr, c'est le groupe suivant, messieurs.
Le groupe C.
Le groupe C, avec ses rencontres aussi qui ont eu lieu la semaine dernière, Christian, pour la suite de la compétition et du programme de la fin des qualifications de la CAN 2021.
Exactement, avec une grosse surprise dans ce groupe. On va déjà donner les résultats des deux journées. Afrique du Sud, Ghana, 1-0. Sao Tomé-Principe face au Soudan, 2-0 pour le Soudan. Deuxième journée, enfin dernière journée du groupe, le Ghana a battu Sao Tomé-Principe 3-1. Et donc la finale du groupe entre le Soudan et l'Afrique du Sud, victoire du Soudan 2-0. Donc le Ghana premier du groupe avec 13 points, Soudan deuxième avec 12 points, Afrique du Sud troisième avec 10 points, Sao Tomé-Principe dernier du groupe avec 0 points. Donc la nouvelle de ce groupe C, pardon, le Soudan du Sud qui se qualifie au détriment de l'Afrique du Sud.
Soudan du Sud qualifié, Ghana qualifié. Le retour des Black Stars du Ghana en Coupe d'Afrique des Nations, Willy Dorkenou, avec le Soudan également qui tire une grosse croix par rapport à son passé, mais notamment ses dernières éditions de Coupe d'Afrique des Nations, et qui revient de plus belle aussi dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Qualification pour le Ghana et le Soudan aux dépens de l'Afrique du Sud.
Oui, le Ghana, c'est bien normal. Donc, pour sa qualification, deuxième au
premier, je savais, j'étais sûr que le Ghana allait être qualifié. Mais les, depuis ce matin, j'étais un peu choqué par le fait que je lise que le Soudan est une surprise. Pas du tout. Parce que le Soudan et l'Afrique du Sud partagent à chacun une victoire à la CAN.
Tout à fait.
Donc le Soudan a gagné dans les années 70, en 70 précisément, en battant le grand Ghana, parce que pour battre le Ghana dans les années 70, il faut se lever très tôt le matin.
Et l'Afrique du Sud,
c'est pas n'importe qui peut battre le Ghana dans les années 70. Mmh. Donc il y a très peu de pays africains sur et qui ont pu battre le Ghana dans les années 70. Donc le Soudan, c'est pas et n'importe qui.
Est-ce que
les Soudanais, on les voit au niveau des compétitions de clubs sur le continent.
C'est ce que j'allais vous dire. Donc, vous faites bien la transition, vous dites.
Ouais,
est-ce que c'est effectivement le football local qui aime la sélection nationale?
Il y a un lien. Quand on connaît la France, on lit la France à Marseille et Lyon et compagnie. On va pas lier la France à Manchester, mais c'est sérieux. Donc il faut lier la fédération à des clubs. Mm-hmm. Donc tous les pays en Afrique qui font du bruit et qui n'ont pas de championnat valable, moi ça m'intéresse pas du tout. Donc quand on parle du Soudan, on voit les clubs soudanais, Al Hilal et compagnie, à chaque fois dans les compétitions africaines. Donc ceux qui parlent de surprise ne savent pas, oui, ou bien ils n'ont aucune idée.
Hakim, Doyen Willy, je viens d'avoir le son de l'après-match de Burkina Faso.
Oui.
Je mets ça à votre disposition tout à l'heure.
Merci beaucoup, Adama. Restez avec nous, Adama.
Hakim, ceux qui parlent de surprise n'ont aucune idée sur le football africain. C'est pour ça que j'ai dit à Salim tout à l'heure que et si on a la bouche, on peut aller manger avec et se taire un peu.
Tout à fait. Salim Layouni, Soudan, ouais. Comme le souligne Willy, ouais. La force du Soudan, c'est aussi effectivement ses clubs et son football local qui permet aujourd'hui d'avoir un Soudan très fort, même en sélection nationale, avec une équipe bien composée et qui arrache sa qualification pour cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations.
Oui, c'est vrai, et je rebondis sur ce qu'a dit le doyen Willy. Parler de surprise, c'est n'importe quoi. On a dit que les premières qualifications du Cameroun et de la Gambie étaient des surprises. Bon, c'est un événement historique. C'est la première fois que les Comores et la Gambie se qualifient. Mais le Soudan, ils n'étaient pas là depuis 2012. Certes, ça fait 10 ans. Mais quand même, c'est pas une nation mineure du continent. Ils ont l'un des meilleurs championnats en Afrique. Ils ont les deux grands clubs, El Merir et El Hilal Omdurman. Vous regardez toutes les précédentes demi-finales sur les 10 dernières années. Vous allez les voir très souvent présents. Ils ont le coach Velut, qui est pas mal, qui fait du bon boulot. Il a dit d'ailleurs, Hakim, j'ai lu une interview de lui ce matin.
Ouais.
Il a dit qu'il voulait dédier cette qualification aussi pour l'équipe du Togo, parce que c'était lui le sélectionneur de l'équipe du Togo en 2010 quand ils avaient été attaqués.
Avant de quitter, effectivement.
Voilà. Ouais. Et donc après, il est parti au TP Mazembe. Il a gagné deux coupes de la Confédération, hein, 2016 et 2017.
Ah, quelqu'un sur le continent.
Ensuite, il est parti à l'Étoile du Sahel. Ça n'a pas marché du tout.
Ouais.
Vraiment. Et là, il est au Soudan et il a des bons joueurs. Il a une sélection soudanaise qui a réussi sa finale contre l'Afrique du Sud. Je rappelle que le Soudan était dans l'obligation de gagner le match.
Hubert Velut, que l'on a déjà eu sur le...
Oui, on l'a déjà eu.
Et qui fait du bon travail, effectivement, sur le continent africain,
voilà.
Avec une sélection de joueurs locaux qui sont importants que...
Non, mais c'est que des locaux, pratiquement. Ouais. Au Soudan...
À 100%,
le championnat très... En fait, pour eux, s'expatrier, c'est aller en Égypte. C'est pas quitter le continent pour eux. Eux, c'est aller en Égypte. Il y en a quelques-uns qui sont passés par l'Ouganda à l'époque, mais la majorité, ils vont directement en Égypte. Et je rappelle aussi, Hakim, que Issam El Haddari, le gardien égyptien, il a la nationalité soudanaise.
Nationalité soudanaise.
Et
également.
Il a joué au Soudan.
Ouais,
il y a des joueurs tunisiens comme Abdelkrim Nafti
qui a joué aussi au Soudan. Double nationalité, hein, égyptienne et soudanaise, puisque effectivement, les deux pays sont pas très.
Et le gardien de Al Hilal, c'était un Camerounais, il s'appelait Maxime. C'est un pays, le Soudan qui a beaucoup. C'est un championnat qui a beaucoup d'expatriés africains.
Messieurs, c'est une Coupe d'Afrique.
Abalo a joué
aux couleurs du continent.
Abalo avec El Merir.
Avec le retour en puissance du Soudan, du Ghana, Christian Chango, les Black Stars qui reviennent, le Soudan qui revient également. Je peux vous dire que ça va être une Coupe d'Afrique qui va battre son plein et qui va être vraiment intéressante.
Oui, ça va être une belle Coupe d'Afrique. Hein. On va voir demain, on connaîtra les 24 qualifiés, enfin les 23 plus le Cameroun, mais le niveau est là. Et sur ce groupe-là, voir le Ghana aussi revenir, renaître un peu de ses cendres, être sur le devant de la scène, ça fait plaisir, notamment les frères Ayou, qu'on a vu bien jouer avec la sélection. C'est tout ça qui est important.
Beaucoup de joueurs qui ont été, finalement, hein, c'est important de le dire, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, on a un peu tiré notre carton rouge par rapport aux clubs européens et aux pays européens qui ne voulaient pas lâcher les joueurs de nationalité africaine. Mais finalement, beaucoup de joueurs ont pu rejoindre leur sélection.
Beaucoup de joueurs ont pu rejoindre les sélections. J'avais bien écouté le débat là-dessus la semaine dernière. Je partageais pas tout, mais on en reparlera plus tard. Ouais. Mais en tout cas, c'est bien que les joueurs aient été libérés, qu'ils aient pu défendre leur sélection. Et c'est plaisant de les voir. On a vu les frères Ayou, Thomas Partey aussi notamment. C'est intéressant de les voir jouer. Et juste dans ce groupe, le Soudan, Afrique du Sud. Le Soudan a un très bon championnat. L'Afrique du Sud aussi a un des meilleurs championnats. Et cette rencontre-là, c'était comme sur le groupe précédent, Mali-Ouganda. L'équipe qui était potentiellement qualifiée et celle qui devait aller chercher la victoire, on a vu qui se sont qualifiés, le Malawi et le Soudan. Les deux équipes qui devaient aller la chercher sont parties la chercher. Donc c'est vrai que le Soudan sort l'Afrique du Sud. Belle victoire sur la rencontre, il n'y a pas photo. On l'a vu tout de suite, dès le début, c'était victoire eux les plus entreprenants. J'ai pas reconnu l'Afrique du Sud, donc c'est que le Soudan les a bien fait déjouer et a été meilleur. Donc
ils ont raté quand même les Sudaf, Christian.
On le rappelle, messieurs, 23e participation à cette Coupe d'Afrique pour le Ghana. Le Ghana, des Black Stars que l'on aime tant, qu'on aime voir effectivement évoluer dans une compétition internationale, une compétition continentale. Le Ghana participera à cette Coupe d'Afrique des Nations 2021 en 2022. On le rappelle encore à nos auditeurs. On rappelle le classement, Christian, pour ce groupe C.
Le groupe C, le Ghana, premier du groupe, le Soudan, deuxième, l'Afrique du Sud, troisième, Sao Tome Principe, dernier du groupe. Ghana avec 13 points, Soudan 12 points qualifiés, l'Afrique du Sud, troisième, avec 10 points.
Et on va s'intéresser, messieurs, au groupe suivant, avec la République démocratique du Congo, le Gabon, l'Angola, la Gambie. C'est le groupe D que nous souhaitons vous mettre en lumière. Restez bien avec nous, puisqu'on va aborder groupe par groupe tout au long de cette émission. C'est les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations sur Africa Radio, avec des analyses complètes et effectivement, en long et en large, on va en parler aussi, des rencontres, des matchs qui ont eu lieu depuis la semaine dernière jusqu'à cette fin de semaine. On va rappeler les résultats, peut-être, Christian, de ce groupe D.
Oui, le groupe D, donc 5e journée et 6e qui a eu lieu tout à l'heure. Le Gabon a battu donc la RD Congo 3-0. La Gambie a battu l'Angola 1-0. Et tout à l'heure se jouait donc Angola face au Gabon. L'Angola a battu le Gabon 2-0. Et la RD Congo a battu la Gambie 1-0. Au classement dans le groupe C. Le groupe D, pardon, la Gambie finit première du groupe avec 10 points, à égalité avec le Gabon 10 points, la RD Congo 9 points, l'Angola 4 points, donc Gabon, Gambie qualifié, RD Congo, Angola éliminé. Juste pour rappeler dans ce groupe, le Gabon et la Gambie ont perdu 2 rencontres, la RD Congo a perdu une rencontre dans ce groupe, mais a fait plus de matchs nuls. Voilà pourquoi ils sont éliminés.
Adama Sourabi, on voulait avoir votre avis sur ce groupe. La République démocratique du Congo, vous connaissez bien aussi, le Gabon, l'Angola, la Gambie. On le rappelle, la RDC éliminée, c'est vraiment un choc, je pense, pour tous les fans du football congolais. En tout cas, nous ici, sur le plateau de Tout Feu Tout Foot, ça nous a vraiment, on a vraiment été sous le choc. Qu'avez-vous pensé de ce groupe D, Adama Sourabier, Gabon qualifié, Angola éliminé, Gambie qualifié et RD Congo éliminé?
Oui, Hakim, je suis peiné pour Christian et puis le doyen Willy. Moi, je l'ai connu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations où on n'était pas présent.
Ouais.
C'est vrai, quand on regarde ce groupe, à l'issue du tirage au sort, tout le monde se disait que la première place va se jouer entre la RDC et la République démocratique du Congo
et le Gabon
et le Gabon. Mais à notre grande surprise, on a oublié que au niveau du football de jeunes sur le continent africain, la Gambie a toujours été présente.
Tout à fait.
Et donc c'est le résultat d'un travail de longue haleine, puisque ceux qui voient aujourd'hui la Gambie être qualifiée, peut-être qu'ils n'ont pas suivi cette nation, seront surpris. Mais ceux qui ont suivi les différentes compétitions des jeunes au niveau de cette nation ne doivent pas être surpris. Aujourd'hui, Et pour moi, je suis peiné de voir un championnat qui a un niveau relevé de la République démocratique du Congo.
Et ne pas voir sa sélection se qualifier, effectivement.
Voilà, la sélection qui ne se qualifie pas, je pense que...
Il va falloir tirer des leçons. Voilà. Hein. D'ailleurs, il y a, voilà, le président qui va s'exprimer, Christian Chango.
J'irai ce qu'il va faire, parce que la RDC a été une grosse pointure lors de toutes les compétitions continentales. Et la RDC a animé toujours la Coupe d'Afrique. Mais dommage, tout ne se joue pas sur le papier. Aujourd'hui, on a la RDC qui reste à la maison comme le Burkina Faso lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, et les éperviers du Togo aussi restent à la maison. On retrouve aussi le retour des Black Stars du Ghana qui étaient aussi restés à la maison.
Tout à fait.
Donc, c'est pour vous dire, aujourd'hui, il n'y a plus de petits continents et au niveau de la CAF lors de nos compétitions continentales. Il faut prendre tous les matchs au sérieux,
ouais,
dès la première journée jusqu'à la dernière
journée. Ouais, de la première journée jusqu'à la sixième.
Le Burkina Faso a eu des difficultés pour pouvoir s'imposer sur ses propres bases devant cette nation. Mmh. Donc, il n'y a plus de petites nations.
C'est vrai, Adama.
Plus de petites nations. Le classement, Christian Chango, on le rappelle, Gabon et Gambie premier, avec 10 points.
10 points, ouais. RD Congo deuxième avec, troisième, pardon, avec 9 points, et l'Angola dernière du groupe.
Woody Dorkenous, Salim, ouais. Adama Sorabi a souligné quelque chose de très important. Effectivement, on a un championnat qui est costaud du côté de la République démocratique du Congo.
Ouais.
Et on s'attriste quand même de ne pas les voir à ce stade de la compétition à se qualifier pour une énième Christian.
Juste, ouais, là dans les rencontres qu'ils jouent, Zimbabwe-Zambie, but pour la Zambie 1-0 et Patson Daka qui a marqué.
Il marque beaucoup, lui.
Je l'ai toujours dit ici autour de cette table et que la RDC a toujours, c'est l'un des rares pays en Afrique à conserver un jeu aussi naïf. Il y a deux pays qui ont conservé ce genre de jeu, je ne sais pas pourquoi. Il y a la RDC et l'Afrique du Sud.
Ouais.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce qu'au niveau de l'Afrique, moi j'avais joué sur le continent avant.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on a un jeu assez naïf que beaucoup de pays ont abandonné.
Ouais.
Le Ghana, le
Nigeria.
Ouais. Mais il n'y a que la RDC et l'Afrique du Sud qui ont conservé ce genre de jeu. Quand moi je vois la RDC... La RDC est l'ennemi de la RDC. Il n'y a personne qui élimine la RDC. Mmh. Moi, j'ai vu la RDC s'éliminer en face de la Tunisie l'autre fois.
Tout à
Donc,
fait.
À chaque fois, c'est la même chose. Même quand ils sont à la CAN, c'est la même chose.
On prend les mêmes et on recommence. Salim, c'est quoi qui vous a choqué par rapport à l'élimination de la RDC? Willy, dans son analyse, il est assez... assez clairvoyant et effectivement précis quand il parle effectivement d'une méforme de
la naïveté du jeu
et déjà, de la naïveté de la RDC sur
déjà il faut rappeler que la RDC a de mémoire commencé cette campagne avec 3 matchs nuls, Christian.
Ouais, ouais, c'est ça, exactement.
Donc ils avaient 3 points.
Il l'a bien souligné, Christian.
Après, ils sont partis en Angola, ils ont gagné.
Plus de matchs nuls
oui,
que d'autres, mais d'autres toute la sélections, phase aller, mais ils sont éliminés.
Toute la phase aller, il y avait eu 3 matchs nuls. Ça s'était fait rejoindre. J'avais regardé le match en Gambie, ils s'étaient fait rejoindre à la fin. Ils avaient fait match nul contre le Gabon, match nul contre l'Angola. Après, ils étaient partis gagner en Angola, ils avaient 6 points. Donc, ils ont très mal géré cette phase retour, premièrement. Deuxièmement, je pense que là, sur ce plateau, Hakim, le temps nous donne raison. C'est pas facile de remplacer Ibenge. C'est pas facile de remplacer Ibenge.
Ah ouais.
Tout le monde lui a tapé dessus, mais Ibenge, il était aux portes. Il a failli se qualifier à la Coupe du Monde. Et je rappelle qu'il a fini avec 13 points deuxième. Il a fini avec plus de points que, que plein de premiers qui se sont qualifiés à la Coupe du Monde de leur groupe.
Ouais.
Et il était deuxième avec 13 points. La Tunisie avec 14 points. C'est la Tunisie qui est allée au mondial.
Jean-Florent Ibenge, qui était l'ancien sélectionneur.
Hein, oui, Jean-Florent Ibenge. Et il a fini avec 13 points. Et la Tunisie avec 14 points. La Tunisie est allée au mondial. On rappelle qu'il a été. 8e de finaliste contre le Madagascar, ils ont perdu la dernière édition.
Tout à fait.
2017, ils ont été quart de finaliste. De mémoire, ils ont perdu contre le Ghana. Ensuite, en 2015, ils ont été demi-finalistes, ils perdent contre la Côte d'Ivoire. Et ils avaient éliminé le Congo-Brazzaville dans un derby avec une remontada en quart de finale. Je parle de la CAN 2015, hein, co-organisée par le Gabon. Ouais. Non, organisé uniquement, pardon, par la Guinée équatoriale. Donc là, moi, j'entends beaucoup de supporters de la RDC critiquer Ibenge, mais c'est pas facile de le remplacer. Pourquoi c'est pas facile de le remplacer, Hakim ?
La transition a été mal faite, selon vous ?
Non, mais il faut un bilan.
Non, c'est pas la transition a été mal faite. Que Ibenge parte un jour, c'est pas ça le problème. Mais c'est la manière avec laquelle on on l'a traité et la manière avec laquelle il est parti. Ouais. C'est ça. Et déjà, Ibenge, lui, travaillait dans des conditions, mais aucun sélectionneur aurait accepté de travailler dans ces conditions-là.
On le rappelle, Christian Chango, le classement de ce groupe D, bien sûr, avec les deux équipes, les deux sélections qualifiées à la Coupe d'Afrique des Nations 2021.
Oui, la Gambie, première du groupe à égalité avec le Gabon, la RD Congo, troisième du groupe, l'Angola, dernière du groupe, donc qualifiée. La Gambie et le Gabon.
La Gambie est premier du groupe, c'est pas un hasard aussi.
C'est pas
parce que l'autre fois, la Gambie a battu le Gabon, tout le monde criait au scandale. Ouais. Parce que la Gambie est deux fois à la Coupe du Monde de U17. Et la Gambie a été deux fois premier.
Gros travail effectué,
premier champion d'Afrique U17 aussi, deux fois.
Première canne pour les Scorpions de la Gambie.
Gros travail sur le plan sportif. Messieurs, restez avec nous. Il est 21h27. Et bien, c'est les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations sur Africa Radio. On parle de football, on parle de sport. Bandera, Jomo Debang, Georges Topé, restez bien avec nous. On va vous donner la parole, bien sûr. Bien, place à l'actualité sportive sur Africa Radio avec Christian Chango, Woody Dorkenou, Salim Layouni. Il y a une rencontre aussi qui se joue, une autre rencontre, Christian, c'est l'Algérie face
au Botswana 0-0 et Zimbabwe-Zambie 1-0 pour la Zambie.
1-0 pour la Zambie. Restez bien avec nous sur Africa Radio pour la suite de Tout Feu Tout Foot dans quelques instants.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Et c'est Tout Feu Tout Foot et c'est l'actualité et c'est du direct avec un but de l'Algérie, Christian Chango, pour ses éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021, même si l'Algérie a arraché son ticket prématurément, et bien grâce à son titre de 2019, l'Algérie qui marque contre le Botswana.
Exactement, coup franc pour l'équipe algérienne tiré par Riyad Mahrez, dévié par le gardien botswanais. Et Aïssa Mandi a suivi avec une petite talonnade, a réussi à marquer.
C'est un magère.
Une magère, précisons. Et donc voilà, but de l'Algérie, 1-0. Et de l'autre côté, dans l'autre rencontre, toujours 1-0 entre la Zambie et le Zimbabwe, but de Patson Daka.
Ouais, but de Patson Daka du côté de l'autre match. Et on s'intéresse bien sûr à ce groupe E, Christian Chango, avec aussi deux équipes qualifiées et le classement bien sûr, ainsi que les résultats pour ce groupe E.
Oui, le groupe E avec, donc on va donner les résultats donc, de la cinquième journée puisque les autres rencontres auront lieu demain. Cap-Vert, Cameroun, victoire du Cap-Vert. Ça c'est le groupe d'avant. Le groupe du Maroc, donc Maroc, Mauritanie, 0-0, Burundi, Centrafrique, 2-0. Voilà pour les rencontres du groupe E qui ont eu lieu déjà. Donc le Maroc dans cette poule est déjà qualifié en attendant pour le Maroc, la Centrafrique et le Burundi où tout reste possible.
Ouais, on s'y intéresse, Woody Dorkenou. La rencontre qui vous a le plus marqué, bien sûr, le Maroc qualifié, avec la Mauritanie dans ce groupe E, la Centrafrique, le Burundi. Quel est le match qui vous a le plus marqué, Woody Dorkenou?
Oui, moi, c'est le parcours de la Centrafrique au niveau du football. Et ça me réjouit, pour que je n'arrête pas de dire que l'Afrique, c'est le seul continent, le premier continent de football, et sur les cinq. Donc, bravo, il n'y a pas de... C'est tellement équilibré au niveau de l'Afrique que ça, on ne voit pas ça nulle part. Ouais, même une rencontre entre le Venezuela et le Brésil, c'est pas la même chose. Mais quand on est sur le continent africain, il n'y a pas de petits matchs. Donc bravo pour le continent africain. Donc moi je le dis, tous ceux qui veulent savoir que l'Afrique reste le seul continent de football.
Ouais, l'Afrique, le continent du football, le continent du ballon rond. Salim, dans ce groupe, le Maroc qualifié, avec accompagné de dans ce groupe E, de la Mauritanie, la Centrafrique, le Burundi. Quelles sont les autres équipes qualifiées? Christian, on n'a que le Maroc.
On
n'a
que le Maroc, puisque la Mauritanie...
Encore un ticket à gagner.
La Mauritanie a 6 points, le Burundi a 5 points, et la Centrafrique a 4 points. Demain, Centrafrique-Mauritanie, match pour la qualif. Et dans l'autre rencontre, Maroc-Burundi, où rien n'est impossible, mais la tâche s'annonce quand même compliquée pour le Burundi, mais c'est pas impossible.
C'est pas impossible. Salim, question simple. Maroc qualifié, pour vous, c'est logique?
Oui, très logique. Ouais. C'était sûr. c'était certain. Après, je pense que c'est un groupe assez relevé par rapport à plein d'autres groupes, hein, parce que quand on est à Centrafrique, Mauritanie et Burundi, je rappelle qu'ils étaient présents lors de la dernière édition.
Tout à fait.
Donc, c'est pas un groupe facile. La Mauritanie aussi était présente. Et puis c'est un derby Mauritanie-Maroc, donc le 0-0 était logique. Ouais.
Alors on va donner la parole à nos auditeurs parce qu'ils sont nombreux à nous appeler. Le standard, je peux vous dire qu'il est en train d'exploser. Il y a plus de place sur la ligne téléphonique d'Africa Radio. Alors Bandera, peut-être votre avis rapidement sur la sélection du Togo, parce qu'il y a de nombreux auditeurs qui nous appellent. On vous dit bonsoir Bandera et votre sentiment par rapport à la sélection du Togo et ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations.
Bonsoir à toute Africa Radio depuis la Bretagne dans les Côtes d'Amour dans le 22. Donc si on fait la lecture de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Pays des Lions indomptables, je peux dire que la star de cette dernière journée de la finition de ces 24 nations sur 54 ou 52 de notre beau continent, je peux dire que vraiment la star de cette édition, c'est la nivellisation sportive des équipes africaines. Mm-hmm. Parce que lorsqu'on parle des champs, où le point Dokunou, Willy Dokunou a toujours souligné sportivement, vraiment, c'est vraiment le côté amateurisme. Donc l'amateurisme qui donne le professionnalisme du football, quel que soit le sport du ballon rond. Donc là, aujourd'hui, on fait le bilan. Allô ?
Oui, on vous écoute, Bandera. Quel est votre avis sur ces éliminatoires, s'il vous plaît ?
Je suis en train de faire la piste, là, ça me fait peur, là. Donc, je dis, qu'est-ce qui se passe ?
On vous écoute, allez-y.
Donc, je dis, au niveau, si on fait la lecture de cette édition, donc, les novices, j'ai fait allusion comme les scorpions de Gambie, du technicien belge, pour ne pas dire Tom Saint-Fils. Donc, et également aussi, au niveau de l'océan Indien, hein, donc, qui ont vraiment déplumé les éperviers chez eux là-bas, même si on fait un match nul. Ça prouve bien que la santé du football togolais est très, 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 ne va pas bien du tout sur le plan sportif.
Qu'est-ce qui explique cela rapidement ?
Pardon ?
Qu'est-ce qui explique cela rapidement, la mauvaise santé du football togolais ?
Il n'y a pas de solution. Hein. Donc le reflet d'une belle santé d'une équipe nationale, c'est son championnat. Mm-hmm. Puisque le championnat n'existe pas au pays des éperviers. Donc tout par contre, c'est tonne. Ouais. On voit le résultat concernant le côté médiocrité du côté des éperviers. Mm-hmm. Donc là, je dis, au niveau de si on fait le bilan aussi au niveau des équipes qui confirment, je fais allusion comme la Guinée qui revient.
Ouais, on en a parlé tout à l'heure effectivement de la Guinée qui se qualifie. Ouais.
Et même au niveau même des confirmés, je fais allusion aussi des confirmés comme les Black Stars, quelle que soit la situation ou même les éléphants, ils sont toujours là. Mmh. Bon, donc au niveau, donc là on peut dire que j'insiste beaucoup concernant cette édition, c'est vraiment le niveau des équipes africaines qui se portent sportivement.
Qui est en train de monter en puissance. Effectivement, ouais, on a ce même avis à Bandera. Ouais. En tout cas, Bandera, merci pour votre,
merci
pour
beaucoup.
Votre contribution. Merci, Bandera. Et rappelez-nous l'émission du vendredi. Rappelez-nous l'émission du vendredi.
L'émission du vendredi, on va Africa Menestrel, c'est la sœur jumelle de Africa Radio. Donc, on va mettre le zoom sur Raoul Diagne. Raoul Diagne, parce que au niveau de
Raoul Diagne, c'est qui exactement?
Raoul Diagne, c'est le premier Africain à avoir revêti le maillot de l'équipe de France en 1931. Le premier Africain.
Merci pour l'histoire du football africain. Merci beaucoup, Bandera.
Oui, donc
dans les années 20.
Africa Menestrel va développer le football prochain.
Super, merci Bandera d'avoir été avec nous sur Africa Radio et dans Tout Feu Tout Foot pour nous avoir effectivement contacté. Topé, bonsoir Topé, comment ça va? Je pense que Topé va nous parler du Nigeria et de cette qualification. Enfin effectivement soulagé. Topé, est-ce que vous êtes soulagé de cette qualification du Nigeria?
Bonsoir à tous.
Bonsoir Topé.
Je sais pas si vous m'entendez bien.
Bonsoir, on vous entend bien, allez-y.
Bon bah parfait. Non, je suis soulagé et à la fois j'étais confiant, hein, pour être totalement honnête. Mm-hmm. C'est vrai que du coup on a l'habitude de se qualifier pour les différentes compétitions. On a un groupe, on avait un groupe assez assez facile, hein, sans, pour être une fois totalement honnête, un groupe à notre portée, on va dire. Et, c'est vrai que du coup, on aurait pu faire un sans faute si on n'avait pas fait ces deux matchs nuls face au Sierra Leone, qui est une bonne équipe malgré tout. Et surtout avec le match avec la remontada.
Ouais.
On va passer au Salon en menant 4-0 quand même, il faut le faire, hein. Et se manger, et se prendre 4 buts par la suite. Et voilà, donc je suis soulagé, mais à la fois j'étais confiant.
Soulagé et confiant à la fois. Vous retenez quoi de la qualification du Nigeria?
Ce que je retiens, c'est que pour moi, on commence à trouver une stabilité offensive. Mm-hmm. Parce qu'à un moment donné, au Nigeria, il y avait une rotation qui était assez importante. On n'avait pas de quatuor ou de trio offensif. Mm-hmm. Et là, on arrive à trouver petit à petit avec Osimhen. Même si auparavant Moussa est un très bon joueur, hein, et a été en tout cas un très bon joueur, même si il fait toujours partie du groupe. Mais il manquait cette étape en fait de pour passer un palier avec des joueurs comme Moussa qui, comme j'ai dit, était un très très bon joueur. Mais je pense qu'il n'avait pas cette efficacité face aux grandes équipes européennes ou mondiales pour nous faire passer un palier supérieur en Coupe du Monde, par exemple.
Ouais, tout à fait.
Et je pense que du coup, là, petit à petit, on a des jeunes joueurs qui s'imposent en Europe et du coup qui s'installent également en Afrique.
Donc, ouais, et puis qui peuvent apporter leur contribution en sélection, effectivement. On le rappelle, Topé, le Nigérien, hein, qui réalise son premier doublé depuis près d'une décennie, incroyable que cela puisse paraître, pour une nation qui a gagné 3 fois le tournoi, faut le rappeler, triple champion. 80, 94, 2013, les Nigériens qui ont au passage privé le Bénin, ou leader que nous, d'une qualification gagnant de justesse 1-0 à Porto Novo.
Oui, parce que le Bénin, comme aussi je l'ai toujours affirmé ici, on ne joue pas le match nul.
On fait un coucou à Jocelyne Senahoun.
Hein. Le match nul, on constate dans les vestiaires ou après le coup de sifflet final.
Ouais.
Donc les Béninois, à un moment donné, ils pensaient jouer le match nul. C'est une erreur fondamentale, due à leur coach, je ne sais pas à qui, ou bien à leur culture trop francophone, entre guillemets. C'est-à-dire qu'un match, on constate le résultat après. On ne peut pas jouer le match nul, ça
alors,
se fait pas.
Alors qu'ils sortent d'une belle campagne de...
Parce qu'on leur a dit qu'ils ont besoin d'un match nul.
2019.
Ouais, mais
j'ai jamais entendu parler. Parce que moi, je suis d'une culture très, très anglophone. Donc, parler d'avoir besoin d'un
match nul... Parlons de victoire avant de match nul.
Voilà. Mais on ne joue pas le match nul. Mais restons sérieux.
Hakim, pour revenir sur le Nigérien, comme tu le disais si bien...
Suite à l'intervention de Topé,
le Nigérien était champion d'Afrique 2013. Ouais. Ils n'ont pas participé à la CAN 2015, ni à la CAN 2017.
Tout à fait.
C'est quand même choquant quand on sait que le Nigérien est l'équipe la plus régulière du continent sur les qualifications à la Coupe du Monde. Déjà, depuis 1994, ils n'en ont loupé qu'une seule, c'était celle de 2006. Oui. Sinon, ils ont toujours été présents. C'est l'équipe africaine qui a le plus de fois passé le premier tour à la Coupe du Monde. Je rappelle 1994, 1998 et 2014. Le Nigeria.
L'équipe mondialiste, effectivement.
Ouais, là, on n'a pas trop le temps, Hakim, mais pour conclure, moi, le Nigeria est la meilleure équipe d'Afrique de tous les temps.
Ouais.
Voilà, pour moi, et je vous expliquerai pourquoi. Une prochaine fois, parce qu'il me faudra au moins 10 minutes pour vous expliquer.
Et la raison,
mais je vous expliquerai. Voilà. Et la meilleure équipe africaine à avoir participé à une Coupe du Monde, c'est le Nigeria de 94.
Oui.
Voilà. Maintenant, la prochaine fois, je vous expliquerai pourquoi.
Et les joueurs venaient d'où?
Oui, bien sûr, ils venaient tous. Ils sont tous formés au Nigeria.
Mais c'est ça le problème.
Mais le Nigeria, c'est qualifié, c'est une très bonne chose.
Topé, eh bien, félicitations pour le Nigeria, auditeur et supporter.
C'est pas le fait de jouer en Europe, non.
Supporter des Super Eagles.
Super Eagles d'avoir été avec nous.
Le fait de jouer en Europe ne fait pas de toi un grand joueur.
D'avoir été avec nous sur la radio africaine.
Le fait de jouer en Europe, ça les aide forcément.
Ouais, mais ça ne fait pas de toi un grand joueur. Je sais de quoi je parle. Le fait de jouer en Europe ne fait pas de quelqu'un un grand joueur. Ça, c'est hors de question, ça.
Non, ça c'est certain, mais après, je pense que en Afrique, quand il y a des confrontations entre équipes africaines, effectivement, ça les dessert peut-être. Mais après, quand on le palier au-dessus, parce que ce qu'on cherche,
il n'y a pas de palier au-dessus. Ça n'existe pas, ça. Le football, c'est global. On a envie de gagner ou on n'a pas envie de gagner.
Ouais, mais tout le monde a envie de gagner.
C'est clair. Qui ont envie de gagner, effectivement. Ouais.
Après, mais dire que parce qu'on est en Europe qu'on peut gagner, non, c'est non, hors Willy, de question.
Non, non. Toupé, il est exigeant parce qu'il va aller loin en Coupe du Monde, il va aller plus loin que le 8e
finale. Donc il faut refaire, il faut réorganiser le championnat nigérien.
C'est ce qu'il fait.
Ouais, c'est ce dont on parle.
C'est clair et net.
Ce dont on parle, en tout cas, on retient surtout la qualification du Nigeria. Effectivement, merci Topé d'avoir été avec nous sur la radio africaine. Et encore félicitations pour le Nigeria, Topé.
Merci.
Allez, on va prendre Georges qui est avec nous. Georges, alors Georges qui nous appelle de l'Angleterre depuis Londres. Bonsoir à vous, Georges. Welcome to the African Radio. To Africa Radio.
Pour commencer, je vais dire à votre précédent interlocuteur qu'il n'a qu'à se calmer. Les Nigériens, ils ont participé à la Coupe du Monde, mais ils n'ont jamais été en quart de finale. Il faudrait que les gens cessent de nous dire.
On a dit
qu'ils ont été l'équipe qui a le plus passé le premier tour, qui ont participé au plus de huitièmes de finale.
Georges, chacun donne son point. Vous savez, au niveau des auditeurs, Georges. On donne la parole à tout le monde.
Georges, c'est un black star, c'est normal. C'est normal.
À Topé, à tout le monde. Bien sûr, on l'a entendu.
Georges, je le connais.
Bandera, Georges également.
Georges est un vrai black star.
Jérôme Debingue aussi qui va. Non, il nous a. Il nous... Alors, je non, vous, non, je pense pas qu'il soit avec nous. On vous écoute, Georges, sur les black stars du Ghana.
Je voudrais vous parler du black star du Ghana.
Oui, on sait.
Bravo au black star du Ghana avec André Ayew. J'ai écouté le discours d'André Ayew. Il a dit il ne faut pas que nous, les Ghanais, on se dit que c'est une formalité. Que à chaque fois qu'on est qualifié, il faut pas que c'est une formalité, c'est un grand boulot.
Ouais.
Parce que le problème, c'est qu'il y a une crise sanitaire qui se pose entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, qui a empêché nos joueurs, André Ayew, Jordan Ayew et puis Thomas Partey, aller en Afrique du Sud. On aurait pu perdre en Afrique du Sud, parce qu'il y avait seulement Kudus et puis Wakaso. Wakaso était le capitaine. Vous imaginez, on pouvait perdre en Afrique du Sud. Donc c'était un grand match.
Bien sûr.
Mais on était privé de nos trois éléments importants. Donc il faudrait que la CAF essaie de revoir tout ça là, parce que cette crise sanitaire entre les pays et que l'Angleterre, parce qu'il y avait la pandémie variante de l'Afrique du Sud,
tout à fait.
Qui a fait que tout voyage de l'Afrique du Sud est actuellement suspendu. Donc ça fait que ces trois joueurs n'ont pas pu faire le déplacement. Et aussi, je voulais faire une petite ratification. Pour l'Afrique du Sud, ça c'est un peu déplorable parce que voyant l'argent que le gouvernement sud-africain déploie dans le football en Afrique du Sud, en principe, on devait voir l'Afrique du Sud qualifiée.
Et surtout le niveau du championnat, Georges.
Oui, surtout le niveau du championnat.
Le jeu est naïf.
Ce qui veut dire que le football africain, ça évolue.
Tout à fait.
Donc, il n'y a plus de petites équipes.
Oui.
Il n'y a plus de petites équipes.
On est d'accord.
On est d'accord.
Donc, il faudrait qu'on souligne ça. Que les gens sachent qu'il n'y a plus de petites équipes.
Ah ouais.
Il n'y a plus de petites équipes, effectivement.
Je trouve que cette réunion au Cameroun pour la compétition, c'est une bonne réunion. De voir même la Mauritanie,
le Soudan, le Malawi,
les Comores.
Moi, je trouve que c'est une bonne chose.
Ouais.
Et je n'ai qu'à apprécier cela et puis à applaudir cela.
Merci beaucoup.
C'est tout ce que j'ai à vous dire.
Merci beaucoup, Jean. En tout cas, félicitations pour les Black Stars. Et merci d'avoir été avec nous sur la radio africaine, Georges. And welcome on the Africa Radio.
Ok, et c'est toujours l'Arsenal, hein. Et je salue aussi Aubameyang pour pouvoir qualifier le Gabon.
Félicitations pour le Gabon, effectivement. Et on fait un coucou aussi à Arsenal, hein.
Ouais, aux Gunners.
Sans problème, je le ferai.
Merci beaucoup, Georges, d'avoir été avec nous sur la radio africaine. On se donne rendez-vous lundi prochain avec vous, Georges. Bien sûr, vous pourrez nous rappeler sans aucun problème depuis Londres, depuis l'Angleterre. On va accueillir un autre confrère, là c'est Nasreddin Abdillah pour parler bien sûr de la qualification historique des Comores. Il va être avec nous dans quelques instants, Nasreddin, bien sûr. On va demander l'avis d'Adama Sourabié par rapport à ses équipes et ses qualifications. Adama Sourabié, les Comores, une qualification historique. Quelle victoire, quelle qualification historique pour les Comores qui arrachent leur qualification, notamment lors de leur avant-dernier match. Qu'avez-vous pensé de leur rencontre, Adama Sourabié?
Oui, je tiens à féliciter les îles Comores pour cette brillante qualification.
Je peux vous dire que il y a 6 ans en arrière, nous avons vu les îles Comores qui ont tenté de monter une équipe qui s'est battue lors des précédentes campagnes de qualification, qui sont passées à côté aujourd'hui, et le Comores a continué à se battre et sans baisser les bras. Eh bien, je pense que c'est le fruit d'un travail de longue haleine, et moi je tiens à féliciter cette nation aujourd'hui par la voix de Nasreddine.
Ouais,
et
par la voix de Nasreddine qu'on va avant
cette journée FIFA où les éliminatoires devraient se dérouler. Donc j'avais fait un petit coucou à Nasreddine par rapport aux îles Comores.
Ouais.
Ben, pour moi, c'est une première. Ben, ouais. Félicitations et bravo.
Et bien mérité, hein.
Félicitations. Alors on le rappelle, Christian Chango, les Comores qui rejoignent eh bien les autres équipes qualifiées à la CAN 2022. Retour sur une qualification historique, on le rappelle, après un match nul face au Togo 0-0. C'était du côté de Moroni le jeudi 25 mars. Les Comores qui se sont qualifiés pour la CAN, la Coupe d'Afrique, une première historique.
Historique, Willy. Mais pas une surprise.
Non, simplement pas une surprise.
Parce que, avant d'être qualifié, parce qu'on parle de ce match nul aux Comores, mais le Comores était parti battre le Togo à la maison.
Tout à fait. Et ils sont partis également battre le Kenya 2-1.
Mais un Togo est qualifié lors en 72 quand il y avait 8 et représentants.
Tout à fait. Tout
donc
à
ça
fait.
Veut dire que Togo, c'est pas battre le Togo, c'est pas n'importe quoi, parce que le Togo 1 qualifié en 72 avec 8 participants, le Togo 2006 est mondialiste, donc c'est pas du tout un hasard.
Ouais.
Donc quand on voit les Comores par exemple, moi je le disais depuis longtemps que le Comores, après avoir fait match nul contre le Ghana,
ouais,
match nul
voilà.
Contre le Cameroun,
et l'Égypte, et contre l'Égypte.
Il faut faire attention à ce pays.
Méfiance, Christian, on va peut-être rappeler cette poule hein, pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, avec les Comores hein, qui avaient dignement célébré une victoire face au Kenya, on se souvient, c'était au mois de novembre, mais là, ils se rapprochaient petit à petit eh bien, de leur première phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, en tout cas une qualification. Et là, ce petit pays de 835 000 habitants eh bien, s'est qualifié la semaine dernière grâce notamment à un match ô combien important et qu'ils ont réussi à tenir jusqu'au bout.
Exact, hein, cinquième journée, Kenya-Égypte, un but partout, Comores-Togo 0-0. Tout à l'heure, Togo-Kenya, victoire du Kenya, 2 buts à 1. Et l'Égypte a battu les Comores à domicile, 4 buts à 0. Mais l'essentiel était déjà fait. L'Égypte, première du groupe avec 12 points, les Comores, deuxième avec 9 points, Kenya, troisième, 7 points. Et le Togo, dernier du groupe avec 2 points, qualifié Égypte et Comores.
Et messieurs, votre avis, bien évidemment aussi sur le 01 55 07 58 00. Christian Chango, votre avis sur cette sélection des Comores qui arrache une qualification historique pour ce petit pays, on le rappelle, hein, d'Afrique de 835 000 habitants.
Oui, c'est historique, hein, il faut le faire. Un groupe où il y a l'Égypte, le Kenya et le Togo, c'est pas évident pour n'importe quelle équipe, n'importe quelle sélection. Mais les Comores, et on en parlait déjà depuis 2019, ouais. Là on voit comment ils sont rentrés dans la compétition, comment ils se préparaient également. On a notre confrère et ami Nasourdine qui en parlera peut-être, mais les Comores, voilà, c'est un travail qui a été fait step by step, comme on dit, étape par étape, qui a mené à cette qualification historique certes, mais c'est pas arrivé par hasard. Il y a eu du boulot qui a été fait et bien fait. Pour un petit pays en termes de taille, comme tu l'as dit, Hakim, en termes du nombre d'habitants.
Ouais.
Mais ils ont réussi à aller chercher cette qualif. Même dans les matchs amicaux qu'on a vus, notamment ici du côté de l'Île-de-France, qui ont été faits par les Comores, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'évolutions, beaucoup de boulot bien fait. Donc encore une fois, on en a déjà parlé, on continue encore. Félicitations vraiment aux Comores qui est parti chercher cette qualif devant le Togo, devant le Kenya. Bon, même si là, ils perdent le dernier match,
bien
mais...
sûr.
L'essentiel est fait et les Comores seront présents en 2022. Il y a une grosse communauté du côté du sud de la France et ici en Île-de-France. Donc on est très contents pour nos frères et amis comoriens.
Félicitations pour les Comoriens. On le rappelle, le staff hein, technique, toute la délégation de l'équipe, hein, les internationaux ont été reçus par le président, le chef de l'État, Azali Assoumani. C'était vendredi dernier. Et il a précisé, je cite, messieurs, cette qualification est un événement important pour tout le pays. C'est la première fois que notre équipe va participer à une compétition internationale en football, a poursuivi le chef de l'État. Alors, il y a également un homme, hein, on l'a reçu. On l'avait invité dans notre émission, c'est Amir Abdou, ouais. Le coach qui a tout changé, le manager qui a tout changé, un homme qui a joué un rôle essentiel dans cette qualification, messieurs, depuis, pas 2014, mais depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui.
Oui, mais quand on l'a eu, on a vu la confiance qu'il avait, ouais. On a senti cette confiance-là. Mais il y a ce que je veux préciser, c'est que tu parles de 800 000 habitants, il y a combien de licenciés ? Sur les 800 000 habitants. Donc, ce qui montre, et je reviens toujours à ma répétition, que l'Afrique reste le continent du football par excellence.
Et Hakim, c'est vrai que tu parlais de 2013.
Ouais.
On a commencé à croire en la qualification des Comores après le match nul contre le Ghana, c'est-à-dire c'est là où a vraiment commencé l'aventure, parce que c'est la confirmation contre un grand d'Afrique, et en plus ils auraient pu gagner le match parce qu'il y avait un but qui a été injustement refusé. Donc là, à partir de ce moment-là, on a commencé vraiment à croire à un futur, à un beau futur pour les Comores. Aujourd'hui, ils sont qualifiés. Et je rappelle que lors de la double confrontation contre le Kenya, qui était donc présent lors de la dernière édition, ils ont réussi à prendre 4 points. Et je disais à la sourdine que s'ils prenaient 4 points contre le Kenya, ça allait le faire. Et finalement, ça l'a
alors,
fait.
Alors, on le rappelle, Christian, les Comores n'ont été affiliés à la FIFA et à la Confédération africaine de football qu'à partir de 2005, avant la nomination d'Abdou. La sélection nationale se faisait surtout très, très, très discrète. Il avait dit, je cite, bien sûr, mon objectif était de mettre d'abord en place un plan et un programme de jeu, d'y faire adhérer les joueurs et de franchir des étapes, d'y aller progressivement en visant, je poursuis, une qualification pour une CAN à moyen terme. C'est ce qu'il a réussi à
bien
faire.
Sûr. Et c'est ça exactement, avant qu'on laisse le ballon à notre ami. Mais c'est ça, quand je te disais étape par étape, et il nous l'avait bien expliqué, on n'arrive pas du jour au lendemain en disant l'année prochaine, je vais gagner la Coupe d'Afrique des Nations. On met d'abord des fondations, on met en place un travail de recherche pour faire grandir la sélection, la formation. Donc c'est vraiment tout un cheminement qui a amené à cette qualification historique. Et quand le boulot est bien fait, il faut le souligner, c'est le cas du côté des Comores.
Alors le sélectionneur comorien Amir Abdou, qui était avec nous dans Tout Feu Tout Foot, eh bien, avait été nommé, on le rappelle, en janvier 2014, alors qu'il entraînait l'Entente Golfec Saint-Paul-d'Espice en division d'honneur. 7 ans après son premier match en tant que sélectionneur face au Burkina Faso, un partout à Martigues, le technicien avait cumulé sa fonction avec celle d'entraîneur d'un club mauritanien, le FC Nouadhibou. Et tout simplement, il était heureux, il était joyeux. On va pas l'écouter, mais on va vous donner sa citation après effectivement cette qualification. Je ressens une grande fierté, une grande joie. Cette qualification est le fruit d'un travail constant avec le joueur, le staff, avec toute la délégation des Comores. Bonsoir Nasreddine Abdilla, comment ça va? Félicitations pour cette qualification historique pour les Comores qui rejoignent effectivement les autres sélections qui ont réussi aussi à assurer leur qualification pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2022.
Bonsoir à l'équipe, j'espère que vous allez bien.
Bonsoir,
ça fait plaisir de vous avoir là ce soir, ça fait longtemps. Et oui, très heureux de cette qualification historique, comme vous l'avez dit. Ça a été une campagne plutôt maîtrisée de la part des hommes d'Amir Abdou, avec des matchs sérieux, solides défensivement, bon, mis à part le match de ce soir, mais sinon, voilà, l'équipe des Comores s'est caractérisée avec une bonne défense et des joueurs cadres qui ont su être au niveau. Et cette qualification, elle est belle pour tout un pays. Et j'espère que ça va être le tremplin pour faire développer le foot comorien. On avait eu Jamel Bakar là il y a quelques minutes en émission, et il nous avait dit que vraiment il souhaitait que cette qualification soit un vecteur de développement pour les Comores.
Jamel Bakar, qui est
un international comorien, ancien international comorien, qui a fréquenté la sélection à de nombreuses reprises, passé par la Ligue 1, Nancy, Monaco. Montpellier, Monaco, formé à Monaco, et qu'on a eu la chance d'avoir tout à l'heure. Et il nous a parlé justement de ce qu'il attendait du coup de cette qualification. Et je le rejoins assez. J'espère vraiment que cette qualif à la CAN va nous permettre de nous développer, développer notre football et aussi développer le pays.
Ouais, tout en sachant qu'il n'y a pas que le football, effectivement, aux Comores qui existe, mais notamment aussi le basket, puisque nous avions invité il n'y a pas si longtemps le réalisateur et cinéaste Mohamed Saïd Ouma pour la réalisation et la sortie de son nouveau film documentaire. On veut parler de Carton Rouge, bien évidemment. Une qualification, Nasreddin, qui arrive à point nommé, notamment pour, pourquoi pas, vous l'avez dit, changer un petit peu les idées reçues par rapport à ce petit pays de 835 000 habitants.
Effectivement, il y a pas mal d'a priori vis-à-vis des Comores par rapport à la petitesse du pays. Et cette qualification montre qu'on a un vrai vivier en termes de football, que les expatriés se sont intéressés à la sélection, ils ont pris les choses en main. Pas mal de franco-comoriens dans cette sélection. On va dire même que c'est la base de cette équipe. Et on a vu qu'une diaspora unie nous a permis de faire des grandes choses. Faut pas oublier, vous l'avez signalé, que Amir Abdou est arrivé en poste en 2014 et il a réussi 7 ans plus tard à se qualifier pour une CAN. C'est quand même extraordinaire. Avec des matchs maîtrisés, avec des matchs aussi références, hein, lorsqu'on a côtoyé des nations comme le Maroc, comme le Cameroun, comme le Ghana lors de précédents éliminatoires, forcément ça forge une expérience et ça permet à ce groupe de progresser et aujourd'hui d'atteindre ce haut niveau et de faire partie des 24 meilleures équipes africaines.
En tout cas, vous allez avoir justement les félicitations du plateau d'Africa Radio et de Tout Feu Tout Foot pour cette belle qualification des Comores. Bravo Nasreddin. Et très très content de cette belle nouvelle et qualification historique à la Coupe d'Afrique des Nations pour les Comores. Nasreddin Abdilla, on le rappelle, bien sûr, vous êtes toujours le bienvenu avec nous dans Tout Feu Tout Foot sur Africa Radio. En tout cas, on était très heureux de vous entendre vous exprimer suite à cette belle qualification des Comores à la Coupe d'Afrique des Nations. Merci Nasreddin Abdilla d'avoir été avec nous.
Merci.
Sur Africa Radio.
Merci l'équipe.
Et on va remercier également Adama Sourabier d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Adama Sourabier d'avoir été avec nous. Il me reste 30 secondes pour remercier toute l'équipe. Merci à Christian Chango d'avoir été avec nous pour bien sûr cette énième émission Tout Feu Tout Foot. Merci à Willy Dorkenou d'avoir été à nos côtés.
Merci
également pour nous partager son analyse et son expertise. Merci à Salim Layouni également. Merci à tous les auditeurs d'avoir été avec nous. Et on remercie aussi Valentin Blanc à la réalisation de cette émission. On fait un coucou à Maxime Salin. À toute l'équipe d'Africa Radio, bien sûr l'équipe technique, réalisation aussi, toute l'équipe bien sûr d'Africa Radio, on les salue et restez bien pour la suite des programmes sur Africa Radio. Le podcast sera réécouté dès demain pour Tout Feu Tout Foot.
Tout Feu Tout Foot, l'émission 100% foot sur Africa Radio.